Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il faut se prévoir de la marche. Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion et forcément vous êtes en retard.
Bravo André Pierre, super, et une belle semaine. Équipe de France,
tout le monde a été important, et même ceux qui n'ont pas joué, parce que je pense souvent à ceux qui n'ont pas joué qui font la différence.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'after J-1 avant le lancement de cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'after foot qui sera en direct tous les soirs de New York à partir de demain, et l'after toute la nuit pour suivre les matchs de la Coupe du Monde, bien sûr, tous les débats, toute l'actu de la Coupe du Monde. RMC qui lance aussi une radio digitale 100% Coupe du Monde dès demain, avec tous les matchs commentés en intégralité, une émission digitale, et puis dès maintenant, si vous le souhaitez, en attendant le match d'ouverture, vous pouvez aller écouter nos podcasts sur les 48 équipes présentes à la Coupe du Monde. Ce soir dans l'after, Jennifer Mendelevitch est là. Salut Jen.
Salut, bonsoir à tous.
Ça va, cette Coupe du Monde se prépare bien pour toi?
Je me prépare en étant avec vous, voilà.
Bon, bah super. Bah c'est bien.
Bah oui.
Ouais, je suis content de t'avoir avec nous à cette veille de Coupe du Monde. Elton Mokolo est là, salut Elton.
Bonsoir à tous.
Et Maxime Chanot est avec nous. Salut Maxime.
Salut à tous. Je devrais dire bonjour parce qu'il fait encore jour ici aux États-Unis.
Ça raconte.
Je suis de retour à la maison. Excuse-moi, Elton. Excusez-moi.
Première intervention.
Bah ouais, comme ça, je vous mets directement
quel
dans le bain.
Quel chanceux d'être. T'es à New York, hein, c'est ça? Tout se passe bien?
Exactement. Ouais, je suis à la maison. Bah écoute, ça va. On a beau temps, et puis surtout, bah, la Coupe du Monde commence. Alors on a hâte.
Ah bah bien sûr qu'on a hâte, et on a hâte bien sûr de vous entendre pour parler notamment de l'arrivée des Bleus, parce que ça va être dans quelques instants en direct sur RMC dans l'After Foot. On va suivre ce moment important, le début de la Coupe du Monde pour l'équipe de France, c'est ce soir. Ils vont arriver dans quelques instants à Boston, on suivra leur arrivée aussi à leur hôtel, des Bleus qui doivent gagner la Coupe du Monde selon Christophe Dugarry. S'ils ne gagnent pas, ce serait un échec. Je vous attends vos réactions sur ce que pense Duga au 32-16 dès maintenant pour réagir. On va parler aussi de l'interview de Didier Deschamps. C'était dans The Guardian. Est-ce que Deschamps est sous-estimé en France? Est-ce qu'il sous-entend dans cette interview? Donc on en parlera avec vous également. On sera en direct de Mexico, puisque c'est là où aura lieu le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud demain à 21h. On sera également avec un invité, Kevin Vessière, qui viendra nous voir à 23h. Il est spécialiste de géopolitique du sport. Il a sorti un livre, Mondial 2026. C'est un mondial très politique. Et il y a quelques instants, les amis, Gianni Infantino a terminé sa très longue conférence de presse. Et on verra ce qu'il a dit.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'heure de conférence de presse, enfin l'heure. Il a parlé pendant 30 minutes, oui. Et ensuite il y a eu 30 minutes de questions.
Voilà, donc
j'en ai compté 7.
Voilà. Évidemment, on a parlé des sujets qui fâchent à Gianni Infantino, que ce soit au sujet de l'arbitre somalien qui a dû quitter le territoire américain, ou encore de l'Iran. On vous fera un récap de tout ça dans l'after à partir de 23h. On parlera aussi de l'Argentine. Tu y tiens, Elton, de me parler du tenant du titre. Est-ce que le back-to-back est possible pour les Argentins? Et puis je vais vous demander dès maintenant, d'ailleurs, de me dire qui sera selon vous la star de cette Coupe du Monde. Alors vous ne répondez pas tout de suite, hein, Maxime, Jennifer et Elton, mais en revanche sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, dites-nous qui sera la star selon vous de la Coupe du Monde. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur YouTube, puisqu'on est en direct sur YouTube, vous le savez, ou encore au 32-16. Allez, tout de suite on va prendre la direction de Boston. On va retrouver Valentin Jamin, les amis. Salut Valentin.
Salut à toutes et à tous.
Salut Valentin.
Valentin,
salut
qui Valentin. Lui est à Boston pour suivre l'équipe de France. Il fait partie de ce dispositif exceptionnel RMC. Alors, des nouvelles des Bleus, parce qu'il y a eu un peu de retard au décollage, donc forcément du retard à l'arrivée à Boston. Où en est l'avion? Est-ce que tu l'as aperçu? Est-ce qu'il va arriver bientôt?
Il est arrivé, il a atterri, l'avion des Bleus, avec une bonne heure, quasiment une heure et demie de retard, Terminal E de l'aéroport de Boston, les arrivées internationales. On n'a pas pu le voir puisque, évidemment, on n'a pas accès au tarmac. Je dis évidemment, certains photographes notamment ont été accrédités pour immortaliser le moment, mais voilà, les accréditations étaient rares, donc on n'a pas pu voir les Bleus se poser, mais on est posté à la sortie. On espère voir les Bleus dans leur bus, puisque le programme maintenant, c'est de sortir de cet avion, de passer la douane. Tout devrait bien se passer, ça s'était bien passé. Mohamed Sanadji, monsieur sécurité, a fait évidemment d'Amber au niveau visa, au niveau passeport, pour qu'il n'y ait pas de problème du côté de l'équipe de France. Et ensuite, ils vont filer dans un bus et donc rejoindre ensuite l'hôtel. L'idée étant de ne pas se mélanger, je mets des guillemets, ne pas croiser trop de personnes parce que, évidemment, l'équipe de France est l'équipe de France. Donc, on nous a parlé de bus qui ne seraient même pas siglés. Mais on veille. Donc, le vol s'est bien passé. 7 heures quasiment. Et donc, l'équipe de France arrive ici. Il est 16h. 16h pile. Donc, en milieu d'après-midi. Et ensuite, à l'hôtel, il y aura récupération et petite activation musculaire également pour la sélection nationale.
Bah, parfait, Valentin. Bah, ce que l'on vous propose, c'est qu'on va suivre justement les Bleus jusqu'à leur hôtel. Dans quelques instants, on sera avec Flo Germain et Arthur Perrault qui attendent l'équipe de France à l'hôtel. Il y a même une petite zone mixte qui a été préparée pour justement avoir quelques réactions des joueurs à leur arrivée. Donc, on vous fera entendre ça en direct. Ça sera d'ici une petite heure, je pense. Merci beaucoup, Valentin. Jeu des pronostics, les Bleus, on est d'accord, font partie des favoris. Et ce serait même un échec de ne pas remporter cette compétition. C'est ce qu'a dit il y a quelques instants Christophe Dugarry. C'était dans l'émission Rotten sans flamme. Écoutez Dugas et on en parle juste après.
T'arrives avec respect de la compétition, t'arrives avec respect des adversaires, mais tu es l'équipe de France, tu as des joueurs incroyables, on peut tous se voiler la face, on peut tous faire semblant. Continuons, allons-y. Aujourd'hui, arrêtons de se voiler la face. On fait partie des deux meilleures équipes au monde, on a les meilleures équipes, on a les meilleurs joueurs. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette Coupe du Monde, tu vas pour la gagner et tu dois la gagner. Bien évidemment, s'ils gagnent pas cette Coupe du Monde alors qu'on est ultra favori, ça sera un échec.
Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec Dugas ? Est-ce que ce serait un échec de ne pas remporter cette Coupe du Monde ? 32-16 pour nous rejoindre.
Non, mais déjà, il y a une contradiction dans ce que dit Dugas, parce qu'il a mis en avant qu'il y avait la France faisait partie des deux meilleures équipes au monde. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre équipe.
Je serais curieux de savoir de quelles équipes il parle,
deuxième,
en effet.
Voilà,
je pense qu'il parle de l'Espagne, je pense.
Ouais, je pense, allez, on peut deviner l'Espagne, voire l'Angleterre, mais en gros, non, j'irais pas jusqu'à dire que ce serait un échec, parce que ça dépend de l'histoire que tu racontes. Je veux dire, en 2022, tu passes à un pénalty de mondial d'être champion du monde, limite. Donc si t'arrives en demi-finale,
ce que dit Christophe Dugarry, c'est que là t'as une équipe qui est largement au-dessus
largement au-dessus, mais qui l'a décrété au nom de qui, au nom de quoi?
Qu'ils y aillent pour gagner, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit ils y vont pour gagner et ils doivent la gagner. Qu'ils y aillent pour gagner, bien entendu que c'est acté. Par contre, ils doivent à tout prix la gagner. Moi, je suis désolée. Ça dépend à quel l'échec, ça dépend à quel tour tu sors, ça dépend si tu fais une belle finale ou pas. Il y a des impondérables dans toutes les compétitions. Il peut se passer plein de choses. À l'instant T, bien entendu que la France fait partie des favoris, mais c'est très compliqué quand même de dire que de pas gagner la finale serait un échec total, surtout pour la dernière de Deschamps. Évidemment que tout le monde a à cœur de gagner cette Coupe du Monde. Par contre, c'est pas un échec de sortir à un niveau honorable.
Et puis factuellement, moi je regarde les trois dernières compétitions: Coupe du Monde 2022, Euro 2024, Ligue des Nations 2025. La France a remporté aucun de ces trois tournois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que t'arrives, alors oui, en tant que favori, mais si je devais aller sur la métaphore boxe, t'arrives en tant que challenger. T'as aucune ceinture. Donc, tu vois, parler d'équipe qui serait l'ultra favorite, moi, j'irais pas jusque là. Pour moi, la France est la favorite de la compétition. Il y a quand même 8 matchs, ça faut pas l'oublier, et 8 matchs où il faut aller au bout avec des équipes qui sont aussi avides de remporter cette compétition.
Maxime.
Après, je pense surtout qu'il faut qu'on soit honnête avec la qualité du groupe que l'on a. On l'a assez parlé, hein, cette ligne d'attaque, elle est digne de peut-être la meilleure nation du monde. Maintenant, je serais curieux de savoir de quelle équipe Dugas parle. Alors, j'imagine l'équipe de France, et vous avez parlé de l'Espagne, mais quand je vois l'Angleterre, quand je vois même le Portugal, je me dis que je suis pas sûr que je mettrais la France forcément dans les deux meilleures nations mondiales actuellement.
Ah bon?
Ça, c'est une première chose.
Ah ouais.
Mais je le dis, aujourd'hui, quand tu regardes intrinsèquement la qualité du Portugal, est-ce que la France est vraiment au-dessus du Portugal? Est-ce que la France est vraiment au-dessus de l'Angleterre? En effet, il y a des super joueurs individuellement parlant, cette ligne d'attaque,
on peut être d'accord quand même pour dire justement que si on parle que de la ligne d'attaque,
c'est pas suffisant, François, on est d'accord, mais on le sait, de concurrence
à ce niveau-là, oui, l'équipe de France.
Elle a pas de concurrence, mais la réalité, c'est que tu gagnes aussi en équipe, c'est-à-dire avec 11 joueurs. Et quand je vois un petit peu sur les deux derniers matchs, un petit peu le déséquilibre défensif qu'a apporté justement cette ligne d'attaque, on en parlera peut-être un peu plus tard. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut un petit peu tempérer et modérer notre analyse par rapport à cette qualité intrinsèque, évidemment, que l'équipe de France a, parce que tu ne gagnes pas uniquement avec des individualités. Ça a été le cas avec des clubs. On a connu ça avec le Paris Saint-Germain quand QSI a très justement essayé d'ajouter un Neymar, un Messi et un Mbappé. On a vu ce que ça a donné. Alors évidemment, les clubs et les sélections nationales sont deux choses différentes. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'uniquement avec des joueurs, tu sois en mesure de pouvoir gagner cette Coupe du Monde. Voilà. Évidemment, je termine mon analyse par rapport à ça. On a une équipe exceptionnelle. J'ai un petit peu peur, et je l'ai dit très tôt, par rapport à l'opinion publique qui pense que cette Coupe du Monde risque d'être facile pour les Français. Je pense que les deux derniers matchs amicaux que nous avons faits ont peut-être remis justement un peu les idées en place à tout le monde en se disant la Coupe du Monde est une compétition relevée et attention, il va y avoir énormément d'équipes qui vont pouvoir évidemment aller au bout.
Non mais de toute façon, on le sait, l'équipe de France, c'est peut-être pour moi l'équipe qui est la favorite pour aller au bout de la compétition, mais ça reste encore une équipe qui est imparfaite. On a parlé des deux derniers matchs amicaux, on a parlé notamment des interrogations sur les latéraux, sur le double pivot et même sur la ligne des quatre attaquants. Ça reste une équipe imparfaite et qui n'est pas à l'abri de tomber contre une équipe qui, sur un jour bien ponctuel, peut te sortir. C'est la réalité de cette équipe de France.
Jen, un mot aussi sur cette équipe de France. Donc, on l'a entendu, Maxime disait, et tu l'as dit aussi, on ne gagne pas grâce à une attaque, c'est vrai, mais on a vu que cette équipe de France, elle avait des individualités tellement fortes qu'elle pouvait même parfois ne pas bien jouer au football et quand même s'en sortir.
Évidemment qu'elle a des individualités tellement fortes, mais il faudrait pas, et c'est aussi un petit peu la petite musique qu'on entend depuis plusieurs jours, que ces individualités tellement fortes, parfois elles se marchent un peu dessus. Et puis surtout, il faut comparer. La Coupe du Monde, c'est pas un tournoi où il y aurait l'équipe de France et bien en dessous les autres. Il y a différents curseurs, mais au niveau de l'équipe de France, il y a beaucoup de sélections qui peuvent poser problème quand même.
Non mais moi aujourd'hui, on a de très belles pièces du côté de l'équipe de France, mais moi ce qui m'intéresse au final, c'est le puzzle. Et moi j'ai envie qu'il y ait un très bel assemblage. Exactement. Pour aller au bout de la compétition. Et aujourd'hui, dans ce fameux puzzle, il y a encore des interrogations. Hier on a parlé de la ligne d'attaque.
Pourtant on ne peut pas gagner juste avec des individualités.
Bah non, ça ne marche pas comme ça, puisque sur les dernières compétitions, l'équipe de France a toujours trouvé plus fort que lui, de manière très ponctuelle, que ce soit l'Argentine, que ce soit l'Espagne, sur les deux dernières compétitions, Euro et Ligue des Nations, ça ne suffit pas. On avait vu le match à Stuttgart, où à un moment donné, avec des individualités extraordinaires, tu étais mené 5-1.
Mais je suis d'accord, mais tu n'avais pas Olise dans l'équipe de France. Tu n'avais pas Olise, tu n'avais pas Désiré Doué.
Bah, s'ils étaient là.
Tu n'avais peut-être pas Cherki. Bah, en tout cas, pas les dernières compétitions.
Tu parles de l'Euro, je parlais de la Ligue des Nations. Oui, mais c'est vrai, mais pour autant, face à une équipe espagnole qui était annoncée out, t'avais perdu. Et je suis pas sûr que la ligne d'attaque de l'Espagne, quand bien même il y avait un Lamine Yamal, il n'avait que 16 ans, elle était supérieure à celle de l'équipe de France.
Maxime ?
Mais c'est surtout important de mettre aussi en avant les carences de l'équipe de France. On l'a vu sur les deux derniers matchs. Alors ça a été un petit peu gommé pendant la tournée au mois de mars contre le Brésil et la Colombie, parce qu'en effet la ligne d'attaque a tellement pris d'ampleur, c'est-à-dire qu'elle a presque pris toute la lumière. Donc on a eu tendance un petit peu à mettre de côté, en tout cas sous le tapis, les carences défensives de l'équipe de France. Mais moi j'ai quand même vu des choses, messieurs dames, qui m'ont quand même inquiété, que ça soit contre la Côte d'Ivoire, que ça soit contre l'Irlande du Nord. On a encore une fois encaissé des buts. On le sait comment que ça se passe dans une grande compétition. On l'a dit très justement. On ne gagne pas uniquement avec l'attaque, mais aussi avec une bonne défense. Et quand je vois les arrières latéraux, par exemple, que ça soit Hernandez ou Koundé, que je vois un petit peu la manière du repli défensif de Kylian Mbappé, que je vois justement ces deux milieux défensifs qui, pour moi, ne sont pas suffisants. Alors, on viendra aussi peut-être un peu plus tard. Je pense sincèrement que Didier Deschamps va faire évoluer son schéma tactique et revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, comme il nous a habitués depuis le début de son règne en tant que sélectionneur. Mais alors, attention, il faut quand même prendre en considération qu'on a vu quand même certaines carences et certaines choses qui, moi, me font dire ça risque d'être un peu plus compliqué pour cette équipe de France, en tout cas pour aller au bout.
Bon, alors il y a le D qui nous rejoint sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, qui dit les trois favoris sont la France avec sa meilleure attaque et défense centrale, l'Espagne qui a le meilleur collectif et un milieu intéressant, et le Portugal, meilleur milieu de terrain et meilleur latéraux. Voilà pour son avis. Le Portugal qui mène d'ailleurs 1-0 face au Nigeria, c'est un match de préparation, hein. Les Portugais qui mènent grâce à Neto, on joue la 25e minute. On va retrouver Flo Germain qui n'est pas très loin de l'hôtel des Bleus à Boston. Salut Flo.
Salut François, je suis même devant, hein, tout devant l'hôtel, le Four Seasons qui est en plein centre-ville de Boston. Il y a une effervescence très claire là depuis une petite demi-heure. Les Bleus ont atterri il y a à peine 10 minutes à l'aéroport de Boston. Il leur faudra une petite demi-heure pour arriver. On surveillera aussi les contrôles, toutes les formalités douanières, etc. Mais en tout cas, quand je parle d'effervescence, c'est qu'on était là avec Arthur Perrault depuis le début de l'après-midi à Boston. À Boston, il est 16h15. 15. Il y avait une dizaine, une vingtaine de curieux au départ. Et puis, visiblement, qu'on soit français résident à Boston ou touriste ou amoureux des Bleus venus aux États-Unis, on s'est passé le mot, on a les bonnes infos, on suit peut-être le fil RMC Sport et on connaissait plus ou moins l'horaire à laquelle il fallait se positionner. Là, devant moi, j'ai beaucoup de maillots de Kylian Mbappé, de Griezmann aussi, hein, pour ceux qui veulent refourguer les maillots de ceux qui. Oui, oui, il y en a qui sont pas à jour ou il y en a qui veulent pas mettre 150 euros dans un maillot. Ça dépend aussi.
Ça se comprend.
Donc Mbappé, il y a évidemment beaucoup de jeunes avec des photos de Michael Olise également, et pas que des Français d'ailleurs. Hein, donc ça veut dire que Olise et Mbappé, ce sont les deux joueurs qui ont la cote, comme Cherki qui a une certaine cote ici aux États-Unis, parce que ceux qui aiment le football suivent la première ligue. Donc je dirais qu'il y a quasiment 200 curieux supporters ou amoureux de ballon ou de l'équipe de France qui se sont positionnés. Donc il y aura forcément beaucoup d'excitation, la quête des autographes et des photos quand le bus va arriver ici au Four Seasons de Boston.
Et bah parfait, tu nous feras écouter justement quelques supporters qui sont autour de toi, et puis on entendra, je vous l'ai dit, cette ambiance à l'arrivée des joueurs de l'équipe de France. On pourra entendre les Français aussi avec Flo Germain et Arthur Perrault juste avant leur entrée dans l'hôtel. C'est dans quelques instants. Vous restez avec nous dans l'after, avec Elton, avec Jennifer, avec Maxime. On continue de parler de l'équipe de France. On sera aussi avec vous au 32-16 pour se poser cette question. Est-ce que ça serait un échec de ne pas gagner la Coupe du Monde? On parlera aussi de Didier Deschamps dans un instant sur RMC. À tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
François Pinet.
De retour dans l'after, 22h18, heure française, parce qu'on parle beaucoup d'heure américaine actuellement. Afterfoot spécial États-Unis dans quelques instants, évidemment, avant l'entrée des joueurs de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et bien, on va vivre leur arrivée à l'hôtel à Boston grâce à nos envoyés spéciaux. On est avec Maxime Chanot qui, lui, est déjà à New York. Maxime, il a déjà fait quelques courses. Sans doute.
Dans les grands magasins. Il est à la maison, Maxime. Donc, lui, pour lui, c'est un jour de plus.
Sur la 5e avenue.
Ah oui, 5e avenue. Ouais,
exactement. Ouais. Je prendrai des photos pour vous, je vous les envoie.
Avec plaisir, n'hésite pas. Hein. Jennifer est là en studio.
T'inquiète
avec
pas, Maxime, on connaît quand même New York aussi.
Oui.
Ouais, je sais, et puis on est pas mal à Paris quand même, pas vrai?
Ah, on est bien. Ah,
oui. Non, on est bien, mais bon, au bout d'un moment, ça va.
Bon, on va évidemment suivre tout ce qui se passe à Boston dans quelques instants, l'arrivée de l'équipe de France. Et puis on parlera dans quelques instants aussi de Didier Deschamps et de son interview donnée à The Guardian. Il y a pas mal de choses intéressantes. Antoine est avec nous au 32-16 en attendant. Salut Antoine.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien?
Très bien Antoine. Est-ce que tu as hâte d'abord que la Coupe du Monde commence?
J'ai très très hâte. J'attends impatiemment comme beaucoup de fans, je pense.
Ben oui, exactement. On est comme toi. Sur cette équipe de France, super favorite ou favorite, disent certains. Pour Christophe Dugarry, tu l'as entendu chez Jérôme Rotten dire que ce serait un échec de ne pas remporter cette Coupe du Monde. Est-ce que tu partages son avis?
Je partage son avis et je pense que s'il y a même des choses sur lesquelles on peut avoir des avis divergents, je pense que sur ça, on est tous de facto d'accord. Oui, je pense que ce serait un échec, un immense échec. Mais...
Ah ouais?
Ah oui, carrément. Toi, tu vas encore plus loin.
Ah, parce qu'il voit la qualité de l'équipe de France. Antoine.
Il ne faut pas se faire aveugler justement par les individualités, on en a parlé juste avant, hein. C'est vraiment un groupe. Et alors pour être très honnête avec vous, autant que j'étais assez confiant après les matchs contre le Brésil et la Colombie, là je me pose un peu quand même des questions.
Hein. Oui, mais les matchs de prépa, tu sais ce que ça veut dire.
Bah, ça reste, François, je suis désolé, ça reste des matchs de prépa où tu dois monter en puissance. Et là, pour le coup, il y a des interrogations, tu vois, par exemple sur l'animation défensive, ça fait un an qu'on en parle. Ouais. Ça, je veux dire, on n'arrive même pas à faire de clean sheet. On a fait, sur la saison 2025-2026, on a fait clean sheet contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Non,
mais, attends, là, Elton,
mais ça, c'est les conséquences du schéma tactique imposé par Didier Deschamps.
On peut pas demander à Didier Deschamps de jouer avec quatre offensifs, de marquer des buts et d'être un peu plus quand même spectaculaire, entre guillemets.
François, si tu veux être le roi de la compétition,
tu peux marquer plus de buts que l'adversaire.
Si tu veux être le roi de la compétition, il faut être élite partout, que ce soit en attaque, mais aussi en défense.
Ouais, alors, tu vas me dire que l'Argentine 2022, elle n'avait pas des trous quelque part. Elle a quand même gagné la compétition.
Ouais, mais elle avait des trous, mais à côté de ça, elle compensait par autre chose. Mmh. Tu vois ce que je veux dire?
Et dans l'absolu, tu vois.
Oui, mais là, ce qu'on essaie de te dire, c'est que forcément, les lacunes, si on peut même, c'est un peu fort, mais les lacunes défensives, elles peuvent être compensées par un nombre de buts supérieur. Ouais, il y a beaucoup d'équipes qui acceptent le déséquilibre. Maintenant, moi, je suis pas de ceux qui te disent que l'équipe de France, elle va survoler la compétition et qu'elle aura pas de difficultés.
dans la foule, moi je suis d'accord, mais François il prend ça avec légèreté. En gros, ouais, bon, on prend des buts, c'est pas grave. Non, moi je veux que l'équipe de France là-dessus soit beaucoup plus.
Mais François a raison par rapport au match de prépa. Je suis entièrement d'accord avec toi, François. En plus de ça, c'est des matchs qui sont encore, enfin, qui se sont joués en Europe, en France. Donc les joueurs ont tendance parfois à lever le pied parce que la compétition commence une fois que justement ils ont posé le pied aux États-Unis. Donc je peux comprendre parfois ce manque d'investissement. En tout cas, la manière de pouvoir jouer en dilettante. Après, ce qu'il faut pas oublier, messieurs dames, c'est qu'on risque d'avoir quand même un scénario de match qui risque de se répéter, c'est-à-dire des blocs pas. On l'a vu contre la Côte d'Ivoire. Et ça, face à ça, l'équipe de France, avec toutes les qualités qu'elle a devant, eh ben, ça devient tout de suite compliqué. Une fois qu'il n'y a pas d'espace dans le dos des défenses, on voit quand même que l'équipe de France a un peu de mal contre ce genre de scénario. Et donc, moi, ça m'inquiète par rapport à ça. On parle d'individualité, mais si ces individualités sont pas en mesure de pouvoir justement exprimer leur plein potentiel et leur pleine qualité, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, ça devient tout de suite compliqué. Hein.
Et on oublie quelque chose de très important pour moi, l'équilibre. Encore une fois, ça va être le maître mot sur cette Coupe du Monde. Comment trouver cet équilibre avec les quatre offensifs, l'équilibre avec le double pivot.
Ça va être le maître mot. Hein.
Ah bah oui, ça va être le maître mot. Ce qu'avait réussi à trouver d'une certaine manière Didier Deschamps en 2018, bien évidemment, en 2022,
c'est. Je trouve qu'il y a un joueur qui peut avoir son rôle à jouer là-dedans, dans cet équilibre, c'est Désiré Doué.
Là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Que j'ai trouvé très bon. À la fois offensivement, mais aussi défensivement. Un gros travail défensif. Il a récupéré quelques ballons. Il est revenu défendre. Il a l'habitude de faire ça aussi avec le Paris Saint-Germain. Il peut s'insérer au milieu de terrain. Je pense que ça peut être la clé de l'équilibre de Deschamps.
Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. En plus d'être un joueur talentueux, pour moi, c'est ce que j'appelle un joueur d'entraîneur. C'est-à-dire qu'il a une telle discipline tactique qu'il peut compenser, notamment, même si il peut compenser dans certains rôles, quand bien même c'est pas son rôle préférentiel. On l'a vu jouer ailier droit du côté du PSG, dans un milieu à trois avec l'équipe de Luis Enrique. Là, il est aligné en tant qu'ailier gauche et est capable de faire énormément de choses pour le bien de l'équipe. Et ça, ces joueurs d'équipe, on en a besoin pour aller au bout.
Antoine, on va retrouver Antoine quand même au 32-16.
On l'a laissé de côté, Antoine.
Bah non, Antoine nous écoute. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose à ce qu'on venait de dire ?
Oui, au niveau des joueurs du PSG, que ce soit bon pour Désiré, pour Ousmane, un petit peu pour Barcola aussi, ils vont surtout souffrir du fait de ne pas réellement pouvoir apporter ce qu'ils ont pu apporter sous Luis Enrique avec Deschamps, tout simplement parce que Tchouaméni et Rabiot, c'est pas Vitinha et João Neves, c'est pas du tout le même apport. Ils vont être beaucoup moins couverts par les deux derrière, donc j'ai peur que ça suffise pas justement pour cet équilibre.
Ah oui, d'accord.
De toute façon, ils sont bien conscients de ça. Tu fais un autre sport dès que t'es en football de sélection. C'est d'autres caractéristiques, d'autres qualités individuelles. Et toi, tu dois faire la synthèse de tout ça. Enfin, tu dois faire la synthèse de tout ça. C'est surtout le sélectionneur.
Tu voulais rajouter quelque chose, Antoine, je crois, sur Mbappé.
Oui, sur Mbappé, parce que avec notre ami standardiste tout à l'heure, on a évoqué le terme de clash. Avec Max, oui, qui me demandait si c'était possible, en cas de défaite, un éventuel clash entre Deschamps et les Français. Donc pour moi, Deschamps, il fait partie des intouchables avec Zizou. Donc non, même en cas d'échec, je vois pas un clash entre Deschamps et les Français. Par contre, je vois un clash, comme vous devez le voir aussi sur les réseaux depuis 2-3 jours, entre les Français et Mbappé.
Ouais.
En cas d'échec.
Qui n'est pas forcément d'ailleurs justifié, hein, moi, je trouve, pour être honnête.
Laisse finir Antoine et après Maxime.
Les Français sont d'une ingratitude. Ils le montrent encore, là, depuis 2-3 jours. D'ailleurs, moi, je suis tous un fan hater de Mbappé. Au contraire, je dois être son top 10 fan. Pour moi, la finale contre l'Argentine, c'est peut-être la plus grande performance individuelle de l'histoire du sport français. Donc pour moi, Mbappé, il devrait être là-haut, il devrait être avec les Deschamps, avec les Zizou, avec les intouchables. Je comprends même pas qu'on se pose la question. C'est signe d'une grande ingratitude et je pense pas que Deschamps, la cote de Deschamps, baisserait en cas d'échec. Par contre, celle de Mbappé sur la scène internationale, en tout cas envers les Français, on est à un tournant, je pense.
Maxime, tu voulais dire quelque chose sur ça ?
Ouais, non, on parlait d'ingratitude des Français, je m'inclus évidemment dedans, parce que la situation est telle qu'elle, c'est aussi parce que nous, journalistes, on a tendance à taper un petit peu sur Kylian Mbappé, par exemple, il y a ce débat depuis quelques jours, en tout cas, où est-ce qu'on oppose, entre guillemets, à Ousmane Dembélé et Mbappé par rapport, justement, à une espèce de guerre d'ego, savoir où est-ce que Dembélé doit jouer, savoir où est-ce que Mbappé doit évoluer, à gauche, dans l'axe. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation où il est vrai qu'en France, on a tendance quand même à taper sur nos meilleurs joueurs. On l'a connu dans le passé avec Thierry Henry, et je prends évidemment l'épisode de la main contre l'Irlande, pour la qualification à la Coupe du Monde 2010. Bon, peut-être que, on n'aurait peut-être pas dû aller à cette Coupe du Monde. Enfin, tout ça pour te dire que si tu compares Neymar par exemple avec l'Argentine, Maradona a fait la même chose, on a appelé ça la main de Dieu. Bah écoute, Thierry Henry a fait ça, on l'a tapé sur les doigts, et c'est exactement la même chose avec Kylian Mbappé. Même si Kylian Mbappé est un personnage qui peut parfois justement agacer, en particulier par rapport à sur le terrain et ses replis défensifs, il faut pas oublier que c'est un super joueur. On a de la chance d'avoir un joueur comme ça dans notre effectif. Maintenant, je suis d'accord avec vous, messieurs dames, va falloir qu'il se mette au diapason de cette équipe de France et surtout montrer une mentalité un petit peu plus altruiste qu'il nous a montré ces derniers temps, et en particulier quand il va falloir défendre en équipe.
Non, mais c'est surtout qu'il y a une autre réalité pour Kylian Mbappé. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il doit y avoir une exigence très importante autour de lui, d'autant plus qu'il est devenu capitaine de l'équipe de France. Il n'y a plus Hugo Lloris, il n'y a plus Raphaël Varane, il n'y a plus Antoine Griezmann, des joueurs qui justement étaient les gardiens du temple. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est le gardien du temple, et donc forcément la focale elle est beaucoup plus sur lui au moment justement. Bah,
mais c'est lui qui l'a voulu par sa communication, par ses prises de position. Donc c'est aussi normal de le juger plus durement à partir du moment où tu t'auto-proclames et d'ailleurs à juste titre peut-être le meilleur joueur de l'équipe de France. C'est totalement normal que les attentes envers toi elles soient décuplées, et que surtout on regarde beaucoup plus les moments où t'as peut-être pas la mentalité qu'il faudrait. C'est totalement logique. Et surtout, notre auditeur parlait des Français et de leur possible désamour pour Kylian Mbappé. C'est en grande partie, je suis même pas sûre que ce soit par rapport à ce qu'il fait sur le terrain. Je pense que c'est par rapport aux nombreuses polémiques et aux prises de position qu'il a pu prendre. Notamment en club, alors qu'à la base, bon, le public français, je ne sais pas s'il est très concerné par ce qui se passe en club, mais c'est un ensemble en fait qui fait que on voit de toute façon qu'en termes d'image, ça n'a fait que décroître l'amour du public français pour Kylian Mbappé.
Et je pense que la fin d'aventure entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain n'a pas aidé non plus à redorer évidemment son image. Et là, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que dans sa communication, il a quand même fait énormément d'erreurs. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai qu'on lui laisse pas passer grand-chose. Maintenant, à lui justement de prouver qu'il est le meilleur sur le terrain. Et ben, en tout cas, il va avoir l'occasion de le faire pendant cette Coupe du Monde.
Alors, on va remercier Antoine d'être passé comme Antoine. Vous faites le 32-16 pour nous rejoindre dans l'after en cette veille de Coupe du Monde. Bonne Coupe du Monde à toi, Antoine. Hein, et bien sûr,
Salut Antoine.
Tu pourras appeler toute la nuit parce que voilà, on sera en direct toute la nuit à partir de demain jusqu'à 5h du matin pour suivre tous les matchs de la Coupe du Monde. D'ailleurs, il y a un partout entre le Portugal et le Nigeria. Le Nigeria qui vient d'égaliser grâce à l'ancien Montpellierin Adams. Un partout entre les deux équipes alors qu'on s'approche de la fin de la première période. Et il devait y avoir depuis 30 minutes un autre match entre l'Angleterre et Costa Rica. Ça a été retardé d'une heure le coup d'envoi parce qu'il y a eu des pluies torrentielles à Orlando. Donc ça présage peut-être d'une Coupe du Monde compliquée avec le temps et la température et les orages, parce que la pelouse est visiblement gorgée d'eau, donc le coup d'envoi a été repoussé. On attend de savoir s'il pourra avoir lieu d'ici une demi-heure. Il ne faut pas qu'il y ait des éclairs qui frappent la zone, évidemment, pour protéger les acteurs.
Non, mais j'ai vu les images du stade, ça ressemble plus à du water foot que du football.
Bienvenue aux États-Unis, messieurs.
Une vraie donnée.
Bah, Maxime, tu ne nous avais pas prévu.
Le guide, c'est notre guide, Maxime Chano, ce soir.
Pour New York, ça va, c'est vrai. En Floride, c'est toujours un peu compliqué la météo en effet d'été.
Bon, il faudra suivre ça, comme on suivra bien sûr l'arrivée des Bleus à leur hôtel dans quelques instants. Vous les entendrez au moment de l'arrivée de l'équipe de France à Boston. Restez avec nous dans l'after, on vient tout de suite sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'after foot.
François Pinet.
Il est 22h34, vous écoutez RMC, merci beaucoup d'être avec nous, merci d'être nombreux sur YouTube, merci beaucoup aussi d'être nombreux sur le WhatsApp RMC. Je vous ai posé la question d'ailleurs à vous autour du plateau et à New York, Maxime Chano, Jennifer Mendelevitch, Shelton Mokolo, qui sera la star de cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à vos messages, on en parlera à 23h45, mais déjà je peux vous lire de Rissa qui nous dit la star de la Coupe du Monde, ça sera Florent Germain.
Il a pas tort.
Ah, peut-être. C'est déjà la star à Marseille. Ça sera la star à Boston. La star de la Coupe du Monde, ça sera Désiré Doué pour Régis. Voilà, le monde le découvrira en 2026 comme il a découvert Kylian Mbappé en 2018.
Enfin, le monde, il est doublé champion d'Europe, Désiré Doué.
Le monde entier.
Enfin, le monde. Je pense que le PSG dépasse les frontières françaises.
C'est ce que nous dit Régis. Et moi, je suis pas loin de penser qu'il a pas tort sur Doué, star de la Coupe du Monde.
Entre nous.
Moi, je le connais, oui, Désiré
Doué.
Oui,
mais on a dit star, voilà. On n'a pas dit
star
révélation.
Star interplanétaire. Oui. Pas star que dans le monde du foot, tu vois ce que je veux dire. Michael Olise pour Kevin. Voilà, il n'y a que des Français. Hein. Harry Kane, la star de ce mondial pour Alexis. Mm-hmm. Grosse pièce sur Alvarez, l'Argentin.
J'aime
pour
bien.
Pour Greg également. Voilà, bon, n'hésitez pas, vous avez encore du temps pour nous laisser vos messages. Qui sera la star de cette Coupe du Monde? Et on posera la question à nos consultants. Dans un instant, on sera également à Mexico à la veille de l'ouverture de cette Coupe du Monde avec Edgar Grolot qui va tout nous dire sur ce grand moment à attendre, cette cérémonie d'ouverture. Et puis on reviendra aussi sur les mots de Gianni Infantino, c'était il y a quelques minutes. La FIFA se ridiculise-t-elle? On en parlera avec vous et avec Kevin Vessière, qui est notre invité spécialiste en géopolitique du sport. Mais d'abord, on va revenir un petit peu sur l'interview qu'a donné Didier Deschamps à The Guardian, avec quelques phrases intéressantes du sélectionneur, celle-ci notamment. À l'étranger, il y a peut-être plus de reconnaissance. Je le sais très bien, puisque je voyage beaucoup aussi à l'étranger, que le ressenti à l'étranger est différent de celui en France. Est-ce qu'il est sous-estimé en France, à votre avis? Elton, je crois que tu avais lu cette interview ou que tu voulais en parler.
J'ai lu avec intérêt, ouais. C'était une interview qui était très intéressante parce que moi, j'aime bien lire Didier Deschamps à travers le prisme des médias étrangers et ce qu'il peut dire et ce qui peut être différent, notamment de ce qu'il peut dire du côté de la presse locale, donc de la presse française. Donc, à la question, est-ce que Didier Deschamps est sous-estimé? Je vais te répondre oui. Je vais te répondre oui, parce qu'en fait, Didier Deschamps, pour moi, il est victime de son succès. Ce que je veux dire par là, tu vois, quelque part, la déclat de Duga, en fait, elle dit beaucoup de ce qui est Didier Deschamps, à savoir qu'il a tellement fixé des standards très élevés qu'aujourd'hui, l'héritage de Didier Deschamps, c'est l'équipe de France qui est une équipe des derniers tours de compétition internationale comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, et qu'on ne pardonne pas autre chose qu'une victoire. Et donc en ça, oui, il peut être sous-estimé parce que en fait, par rapport d'où revient l'équipe de France, et il l'a évoqué tout au long de l'interview, l'équipe de France était déclassée à un moment donné. L'équipe de France s'est d'abord remise dans le concert des grandes nations avant d'être la meilleure équipe. Bon, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas.
Oui, mais ça dépend aussi des générations que tu as à ta disposition.
De là à aller en finale, c'est la seule équipe.
D'accord,
qui a fait,
mais t'as quand même un matériel exceptionnel pour travailler par rapport à d'autres sélectionneurs qui n'ont pas cette chance. Donc on peut aussi
Jennifer, il y a d'autres nations qui ont du matériel et qui n'ont pas fait ce qu'a fait Didier Deschamps.
Mais sauf que Didier Deschamps, avec le matériel qu'il a, il nous a jamais fait extrêmement vibrer. Et je pense que c'est ça qui lui est reproché.
Après, attention, on parle de deux choses différentes. Vibrer, moi je te parle du caractère compétitif.
Sur les résultats, il n'y a rien à dire. Mais je pense que là, ce qu'il dit à des médias étrangers, c'est en gros, chez moi, en France, on me reproche mon style de jeu. Mais il faut savoir à quel degré on juge son parcours. Est-ce que c'est entièrement sur les résultats? Est-ce que c'est sur le style de jeu? Est-ce que c'est
sur l'histoire qu'il raconte?
Bah, totalement. Est-ce que c'est quelqu'un qui a créé un lien avec le public français? Il y a beaucoup de choses à dire sur un sélectionneur. Donc effectivement, sur les résultats, il y a pas grand-chose à dire. Il y a des explications aussi parce qu'il a bénéficié de générations exceptionnelles. Moi, je pense que là où on sous-estime un petit peu Deschamps, c'est dans sa qualité de manager. Parce que je pense qu'il est. On comprend pas à quel point il a été intelligent dans sa gestion des hommes et des égos parfois. Et on tape beaucoup sur le style de jeu, le côté tacticien, etc. En disant c'est pas le spectacle qu'on voudrait voir. Mais je pense qu'il peut y avoir plusieurs lectures aussi.
D'ailleurs, il y a dans cette interview quelque chose de très intéressant et de très Deschamps, mais il dit j'ai un mot magique, adaptation. Il explique, par rapport à la personne que j'ai en face de moi, je m'adapte. Cela conduit donc à des modifications. C'est pas parce que nous avons fait ça que ça a bien fonctionné que nous ne devrions pas changer. Mais c'est pas non plus une question de changer juste pour changer.
Non, mais c'est clairement pour moi une facette qui est sous-estimée du côté de Didier Deschamps, parce que pour moi c'est deux faces d'une même pièce. À savoir que Didier Deschamps, on a souvent parlé de lui en tant que pragmatique. Mais pour moi, Didier Deschamps, c'est un entraîneur qui a été innovant sur les 15 dernières années du football de sélection. Je veux dire, l'équipe de 2016 n'a rien à voir avec celle de 2018, qui n'a rien à voir avec celle de 2022, qui n'aura rien à voir avec celle de 2026. Précisément pourquoi? Parce que il a toujours été en capacité de s'adapter, de lire notamment ce qui était le mieux pour l'équipe de France et donc de la rendre encore plus compétitive. Et c'est en ça que pour moi, sur les 15 dernières années, c'est peut-être le meilleur manager du football de sélection.
Jennifer aussi est d'accord.
Je reste bouche bée devant Elton toujours. Je trouve que c'est un petit peu décevant entre guillemets de devoir aller parler à la presse étrangère pour dire on m'aime pas assez en France.
Non mais après tu sais comment ça se passe. Nul n'est prophète en son pays. C'est toujours la même chose. Tu te sens beaucoup plus considéré à l'étranger qu'à la maison.
À l'étranger, ils ne comprennent sans doute pas pourquoi il y a toutes ces critiques autour de
l'étranger.
Oui, mais c'est toujours facile parce que qu'à l'étranger, français, on ne regarde pas non plus
parce que
de
c'est
la
très
même
français.
On regarde chaque pays juge son sélectionneur beaucoup plus durement que les pays étrangers. C'est logique, c'est sur toi qu'est la loupe dans ton pays. Donc les journalistes, le public, forcément, ils s'interrogent.
Il sera plus exigeant.
Bien sûr.
Ouais. Maxime.
Luxembourgeois, mais pas que, François. Non, aussi français,
sais,
hein, n'oublie
je
pas.
Sais, hein. Je sais, mais t'as choisi une autre sélection. C'est pour ça, t'as fait un choix.
Bah ouais, j'étais peut-être tout simplement pas assez bon pour jouer pour la France.
Ah, mais c'est pas un choix. T'as pas choisi le Luxembourg.
Il faut être honnête. Maxime, ne dis pas ça. Moi, je crois une histoire romantique, moi.
Moi, je pense que c'est pas.
Elton, il faut être.
C'est pas une question d'argent.
Non, laisse-moi être naïf. Laisse-moi être naïf. Je veux croire à mon histoire romantique.
Non, pas du tout. J'ai voulu un plus petit pays, c'est vrai. Non, mais pour revenir à Deschamps, messieurs, dames, je pense que c'est important de comprendre la période dans laquelle il récupère une équipe de France. Tu l'as très justement dit, Elton, c'est-à-dire que l'après Laurent Blanc, bon, ça allait à peu près avec Laurent Blanc, mais on a quand même eu.
Ah, on a des petits problèmes de connexion avec.
C'est complètement.
Avec New York. On a des problèmes de connexion avec New York, voilà, Maxime. Donc on va essayer de reconnecter tout ça. Bah, il faut dire que oui, New York, c'est loin. Donc forcément, on essaye de connecter, mais on va retrouver Maxime Chanot dans quelques instants. En tout cas, il a aussi beaucoup parlé, et ça, c'est pour revenir au débat précédent dans The Guardian, hein, puisqu'on parle de cette interview. D'ailleurs, vous pouvez aller retrouver les meilleurs morceaux sur rmcsport.fr. D'équilibre aussi. Hein. Alors ça, c'est plus tactique, bien sûr, mais voilà, c'est la recherche à tout prix de l'équilibre. C'est aussi ça, la marque et la patte Didier Deschamps. Et ça sera un de ses.
Ah, bah oui, totalement.
Un de ses mots aussi phares pour ça. Voilà.
Là, ce qu'il avait réussi à trouver à l'Euro 2016, avec notamment l'introduction de Moussa Sissoko sur le côté droit, 2018 avec Blaise Matuidi, 2022 avec Antoine Griezmann. Et quand il l'avait pas trouvé, bah, ça s'est soldé par quoi? Ça s'est soldé par une sortie de route en huitième de finale contre la Suisse, à un degré moindre par une demi-finale contre l'Espagne, précisément parce que c'est Didier Deschamps pour moi. C'est l'art de la synthèse, cette capacité justement à aligner les meilleurs talents possibles et essayer de faire en sorte que ces joueurs soient fonctionnels dans une même équipe.
Est-ce que ça peut marcher dans un club? Parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup, Jennifer, Elton et Maxime, quand on le retrouvera, du Deschamps sélectionneur. Et étonnamment, maintenant, on ne le voit plus quasiment que comme ça. Difficile de l'imaginer autrement que sélectionneur.
Ah, c'est vrai qu'il va faire un nouveau métier. Enfin, s'il revient dans le football de club, bien évidemment, il fera un nouveau métier parce qu'il serait jugé tous les trois jours avec forcément l'aura de Didier Deschamps qui a remporté la Coupe du Monde. Et c'est vrai que la transition, s'il venait à revenir, elle serait peut-être un peu plus compliquée.
Non. C'est deux.
Attention, deux métiers complètement différents hein, entre ouais, être ouais, sélectionneur et être entraîneur en club. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et quand tu as été sélectionneur pendant un certain temps, très difficile de revenir dans un contexte où tu dois retravailler tous les jours. Parce que je te dirais pas qu'être sélectionneur, c'est presque être en pré-retraite. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir énormément de vacances. Hein. Donc, il va falloir que Didier se remette un petit peu au diapason. Mais pour revenir, moi, très rapidement à Didier, et c'est ce que je disais un peu plus tôt dans mon analyse, il faut remettre aussi dans le contexte, lorsque Didier Deschamps récupère l'équipe de France, il y a l'opinion publique qui s'est complètement désintéressée de cette équipe de France. Donc, je pense qu'il faut donner du crédit à Didier dans la manière dont, en tout cas, il arrivait à redonner énormément d'envie aux Français de suivre cette équipe de France. Alors, évidemment, bien aidé par cette victoire en Coupe du Monde 2018. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Didier Deschamps, c'est quand même 14 années en tant que sélectionneur. C'est juste énorme. Et donc, quand on parle justement d'héritage, Didier Deschamps, il a eu le temps, en fait, de pouvoir évoluer, d'imposer sa patte et son idée de cette équipe de France. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, quand je vois la manière dont il a décidé de jouer sur cette dernière compétition, en mode un petit peu football champagne, j'ai l'impression qu'il est en train de préparer sa sortie pour justement essayer de retrouver un projet qui permettrait derrière de pouvoir, voilà, retrouver quelque chose qui lui conviendrait.
Oh bah, je pense qu'il en a des projets qui l'attendent quand même, hein, malgré tout.
Ce qu'il joue contre lui, encore une fois, et vous l'avez très justement dit, c'est aussi sa manière de jouer. C'est vrai qu'on s'est ennuyé, on va pas se mentir, pendant 14 ans. On l'a assez critiqué, justement.
J'irai pas jusque-là. Ouais. Je veux dire, l'équipe de 2022.
Elton, trouve-moi des matchs références de l'équipe de France. Alors, évidemment, tu vas en trouver.
Alors, Maxime, j'ai mon dossier, je peux t'en sortir.
Allez. Avec le matos qu'on avait, avec le matos qu'avait dit Didier Deschamps, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un peu plus de spectacle? Mais finalement, à la fin, qu'est-ce qu'on retient? On retient les titres, et c'est vrai que cette Coupe
match
du Monde 2018.
Match référence, t'as France-Argentine 2018, oui. T'as France-Croatie. En 2016, t'as le France-Islande au Stade de France, le quart de finale.
C'est vrai.
2022, t'as même le premier tour contre le Danemark.
Bah, et puis la finale.
La finale de Coupe du Monde, bah, qui est l'une des plus grandes finales de l'histoire de cette compétition.
Non, je voulais dire, on la joue pas bien la finale 2022, hein, pendant 60
d'accord,
minutes.
Je suis d'accord, mais okay. Je veux dire par là, l'équipe de France, notamment dans sa capacité à écrire une histoire, à t'emmener, à être une équipe qui a été très importante, offensive, elle a aussi ses matchs.
Oui, mais si tu ressors un feeling général sur les 14 années, il y a personne qui va te dire qu'il s'est éclaté avec l'équipe de France de Deschamps, c'est pas vrai.
Ouais, mais après, attention, ça marche avec toutes les nations, parce que tu vois, ça, on en revient à ce qu'il dit, à savoir que quand on va faire le jeu des comparaisons, je veux dire, l'équipe de France, elle est là, mais il y a d'autres pays comme l'Espagne qui ont eu un énorme passage à vide, l'Allemagne a connu un passage à vide, l'Angleterre a connu un passage à vide, donc ce que je veux dire par là, c'est que rester dans le très haut niveau du football de sélection, c'est pas à la portée de tout le monde.
Je suis d'accord. Et quand tu regardes le ratio des victoires de l'équipe de France, c'est 60%, hein, c'est 107 victoires sur 169 matchs, ce qui est quand même plus qu'honorable, hein, de la part de Didier Deschamps. Et il faut pas oublier que c'est le seul aussi, avec Mario Zagallo et Beckenbauer, à l'avoir gagné en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur. Donc c'est aujourd'hui, je pense
toi, mettre
Didier Deschamps en tout cas à la table des légendes, je pense qu'on peut le mettre. Après, dire qu'il nous a fait rêver pendant 14 ans, c'est pas le cas, Elton. Là, je suis pas d'accord avec toi.
Non, bon, je te dirais pas 14 ans, allez, 13 ans.
22h46, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, là, ça bouge un peu du côté de l'hôtel des Bleus à Boston. Donc on aura le droit en direct à l'arrivée des joueurs sur le sol américain, et dans leur hôtel à Boston, on pourra sans doute les entendre également au micro de nos envoyés spéciaux aux États-Unis. Vous restez avec nous, on revient dans moins de 2 minutes sur RMC pour vivre ces moments, et puis on va parler aussi des tenants du titre, l'Argentine. C'est l'avis d'Elton Mokolo dans un instant, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
François Pinet.
22h48, vous écoutez RMC et le direct, forcément, ce soir, bien évidemment, c'est l'arrivée de l'équipe de France à Boston. Alors, ils ont décollé avec un peu de retard, ils sont bien arrivés et ils sont du côté de l'hôtel des Bleus. Est-ce qu'on peut retrouver nos envoyés spéciaux? Flo Germain, qui est du côté de cet hôtel, qui est tout proche, va nous rejoindre dans quelques instants. Philippe Diallo fait partie de la délégation. On est avec Elton Mokolo, avec Jennifer Mendelevitch, avec également Maxime Chano en direct de New York. Bon, New York-Boston, là, t'as pas une fenêtre pour voir ce qui se passe, Maxime. Tu ne peux pas nous commenter les images. En tout cas, Flo Germain,
loin, ouais,
Flo Germain est là en direct avec l'arrivée de Philippe Diallo et de la délégation française, Flo.
Exactement, alors là tout le monde a sorti son téléphone pour immortaliser le moment en vidéo. On a Didier Deschamps qui a notamment été acclamé. Là on entend des supporters qui ont aperçu Maxence Lacroix. Il y a Malo Gusto avec son casque sur la tête. On espère que beaucoup vont jouer le jeu, vont faire le petit coucou qu'il faut, voir s'arrêter, faire des autographes, parce que je le disais, il y a beaucoup de monde, hein. On était à 200 tout à l'heure. Allez, je rajouterai 50 ou 100 supporters. Alors, je vous laisse un peu l'ambiance pour que vous entendiez.
Ah oui.
Mais là je pense qu'on doit avoir du lourd qui descend de l'autobus. On voit Désiré Doué notamment qui est avec sa casquette, Marcus Thuram qui n'est pas loin, Warren Zaïre-Emery. Alors pour le moment ce sont plus des joueurs qui ont le casque sur les oreilles, la capuche parfois sur la tête et qui prennent pas forcément le temps d'aller se rapprocher des supporters. Mais voilà, il y a quand même un peu d'espoir que certains jouent le jeu, s'arrêtent. Écoutez l'ambiance ici à Boston près de l'hôtel.
Il y a Kanté.
Vous avez vu qui les gars pour le moment?
Alors on a vu Barcola, Kanté, il y avait aussi Konaté, on a vu Didier Deschamps au début. Là je pense qu'il y a Mbappé qui va arriver, du coup tout le monde craint encore rien, on voit rien. Mais là il y a Rabiot, il y a Upamecano. Là on voit, il y a tous les joueurs, c'est dingue en fait, on ne comprend plus rien.
Les gars, vous savez que vous êtes en direct dans l'after là, c'est énorme pour vous.
Ah c'est incroyable, vive la France. Et on est tous ici, donc très content pour la France ici à Boston. Bienvenue à Boston la France, on est là.
Ok, il y a de l'excitation parce qu'il y en a qui ont reconnu la bonnette RMC. Et vous êtes des stars les amis aussi, hein. Donc passer dans l'after et voir les bleus. Non c'est vous. Et voir les bleus, c'est énorme. Moi je vais essayer de me faufiler, de voir si ça signe des autographes. Mais en tout cas vous l'avez compris, l'excitation, elle est là à Boston.
Ah mais génial.
Non mais l'auditeur est extraordinaire.
Non mais
là, il m'a mis dans la Coupe du Monde.
Non mais on s'attend pas à une ambiance comme ça aussi loin. et des Bleus, là, ça doit faire du bien quand même de prendre, je m'adresse à Maxime Chanot, là, de prendre toutes ces bonnes vibes avant la Coupe du Monde.
Bah alors écoute, du côté de New York, nous c'est vrai qu'il y a une autre vibe, en l'occurrence c'est l'Enix actuel, hein,
en NBA,
c'est
vrai que
la ville est toute aux couleurs exactement de la franchise new-yorkaise de NBA, mais c'est vrai que en règle générale le football est quand même aujourd'hui multiculturel, c'est un grand melting pot aux États-Unis avec énormément de personnes qui voilà qui arrivent d'Amérique du Sud, d'Europe, donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir en tout cas une ambiance comme celle-là, et moi je suis convaincu qu'on va avoir des ambiances au stade incroyables.
Ah oui, franchement, c'est bien de voir tous ces supporters français.
François Deschamps, il a raison. Plus considéré à l'étranger. Eh oui.
Allez, même aux États-Unis, t'imagines?
Même aux États-Unis.
Il y a pas mal de gens qui nous écoutent.
Hein, c'est parce que les Américains, en règle générale, connaissent pas vraiment les règles. Et une petite anecdote, quand moi je jouais en MLS, c'est vrai que le stade avait tendance à faire beaucoup plus de bruit quand un joueur prenait un carton jaune que lors d'un but. C'est pour te dire un petit peu le niveau de connaissance footballistique des Américains. Mais là, on parle d'une Coupe du Monde, évidemment, avec énormément d'étrangers qui viennent soutenir leur équipe nationale. Donc, c'est un petit peu différent.
Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir ce public et ces supporters français qui vont suivre les Bleus. Nous, on a toujours aussi les images ici, grâce à la magie des envoyés spéciaux qui nous font parvenir ces images. Et effectivement, on voit ces joueurs qui défilent un à un avant de rentrer dans cet hôtel. On retrouvera, j'espère, Flo Germain dans quelques instants avec des supporters. Peut-être que certains vont également parler parce que on nous avait dit, pour rien vous cacher, qu'une sorte de mini zone mixte allait être mise à disposition pour pouvoir écouter les joueurs. Peut-être qu'on va pouvoir écouter Adrien Rabiot. Tiens, on va écouter en direct sur RMC dans l'after.
Un accueil très chaleureux, beaucoup de monde, encore plus qu'en mars. Donc ça fait plaisir, ça donne vraiment envie de débuter la compétition. Et si c'est comme ça à chaque fois et dans tous les stades, ce sera bien pour nous.
Adrien Rabiot en direct.
Ah, ça s'est très bien passé, on en a profité pour se reposer un petit peu. C'était quand même assez long récupérer. Hier, on a eu un jour de repos, donc là, c'était surtout pouvoir dormir un petit peu, pouvoir ensuite gérer le décalage horaire, donc dormir un peu, mais pas trop. Et voilà, il y en a certains qui ont joué, d'autres qui ont regardé des séries, voilà, comme on peut faire sur tous les vols.
Adrien Rabiot en direct dans l'after grâce à Arthur Perrault. On continue avec Aurélien Tchouaméni désormais au micro d'Arthur Perrault.
Le vol, il s'est très bien passé. Voilà, on a un peu nos habitudes comme on était là il y a quelques mois, mais vous voyez l'accueil qu'il y a avec tous les fans, on est content d'être là.
Aurélien Tchouaméni dans cette zone mixte improvisée, il y a beaucoup beaucoup de bruit, donc il a du mal à écouter et à comprendre les questions.
Ouais, ça nous, fait on va plaisir, on sait qu'il y aura du monde qui va nous supporter. Et voilà, de voir toutes ces personnes-là qui sont là pour nous accueillir dès le premier jour, ça nous fait chaud au cœur, évidemment. Ouais, j'ai regardé. En plus, là, c'est à la bonne heure, donc ça va être cool.
Ça parle NBA.
Merci, bonne installation, Aurélien.
Ça parle NBA, évidemment, bien sûr, en direct dans l'after. On a pu avoir effectivement les premières réactions sur le sol américain d'Adrien Rabiot, d'Aurélien Tchouaméni. Et oui, il y a beaucoup de joueurs français qui sont fans de basket. Et ce soir, il y a le match 4 avec Wembanyama, bien sûr, côté Spurs, face aux Knicks de New York. Il y a deux.
Je peux te dire qu'on va aller le voir, François.
Quoi ouais.
On va
Comment
aller le voir.
Ouais.
Eh oui,
ah bah voilà.
On va aller voir. Alors,
il continue.
Mais c'est incroyable.
Non, mais c'est pour
ça.
Kelton, c'est non, pour Kelton là, vraiment ouais. Ressente un petit peu la ferveur du public.
Je suis complètement indifférent à ce que vous dites.
Bon, et toi, t'es pour qui, Maxime? Les Knicks
ouais,
ou
bien évidemment,
les Spurs?
Mais je suis New Yorkais de cœur, donc pour les Knicks. Ouais, je sais qu'il y a un Français de l'autre côté, mais non, je suis pro New Yorkais.
Bon, d'accord. Pour l'instant, il y a 2-1 et on suit le match 4 là cette nuit, nous sur RMC. Hein, donc ne manquez pas ça. Hein, tout débrief aussi dans la matinale d'RMC. En espérant, nous, qu'il y aura peut-être un match 5 et du suspense dans cette finale NBA. Il y a Kylian Mbappé, là, pour rien de vous cacher, qui vient de passer, qui est évidemment un des joueurs les plus applaudis côté français, qui a sans doute signé quelques autographes. Je ne sais pas s'il passera au micro d'Arthur Perrault. Il est un peu loin maintenant, malheureusement, du micro des journalistes, donc ça m'étonnerait qu'on puisse écouter quelques mots de Kylian Mbappé. Mais c'est pas mal, moi, je trouve, Elton, cette petite installation avec les premiers mots là des joueurs français.
Ouais,
là,
moi, je trouve ça pas mal, ouais, le fait de pouvoir s'exprimer, donner leur ressenti, parce que voilà, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde, l'arrivée dans ce qui est le camp de base désormais de l'équipe de France, ça amène de l'effervescence, de l'excitation, et donc on a hâte que ça commence, même si l'équipe de France va démarrer très tardivement parce que c'est le 16 juin.
Mais oui, mais on va en parler nous tout au long
c'est vrai quand tu es joueur, t'as quand même envie de démarrer le plus rapidement possible, mais voilà, les derniers seront les premiers comme on dit.
Ah bah oui. c'est bien dit.
Allez,
22h56, Maxime Chanot en direct de New York, vous l'avez compris, avec Elton Mokolo et Jennifer Mendelevitch. On continue cet after spécial Coupe du Monde dans un instant. On va parler de ce qui s'est passé à la FIFA avec Gianni Infantino qui a livré ses premiers mots. Il était très attendu. On vous fait un récap de tout ce qu'il a dit, le président de la FIFA, et on sera avec Kevin Vessière, notre invité, pour son dernier livre, spécialiste de géopolitique et de sport. Est-ce que la FIFA se ridicule dans ce début de Coupe du Monde? On en parle avec vous également au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'after foot.
RMC. Non, là-dessus, vous êtes en retard et vous avez le pied au niveau de la chaussure. Je n'en veux plus. C'est clair? Vous voulez un soin ou ça va aller? Vous voulez un soin?
Condamné. Oh là 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 là. C'est plus une pression, là, je suis déjà au pilotis.
Je vous ai dit, je vais pas me flageoler tout seul.
C'est vraiment un casse-pipe chinois.
Vous voulez un soin?
Jusqu'à minuit, l'after-foot.
François Pinet.
De retour dans l'after, à J-1 du début de cette Coupe du Monde 2026 que vous allez vivre en direct en intégralité sur RMC. Maxime Chanot à New York. Déjà, le chanceux Jennifer Mendelevitch est là, Elton Mokolo, qui ont la chance d'être avec moi.
Évidemment.
Bien sûr.
Pour rien au monde, j'échangerai avec Maxime.
C'est déjà pas mal. Je vous rappelle le dispositif exceptionnel d'RMC pendant le Mondial, des envoyés spéciaux partout. D'ailleurs, vous avez pu entendre en direct et c'est à retrouver en podcast si vous nous écoutiez, si vous ne nous écoutiez pas. RDR Radio et Aurélien Tchouaméni en direct sur RMC. Les Bleus, ça y est, sont entrés dans leur hôtel à Boston et grâce à nos envoyés spéciaux, on a pu les entendre en direct. Et puis, on sera aussi à Mexico dans un instant avec Edgar Grolot qui prépare sa cérémonie d'ouverture. Peut-être qu'il va chanter. On ne sait pas. Edgar Grolot, on verra. Dans cette cérémonie, il nous dira tout avant le match entre le Mexique et l'Afrique du Sud demain 21h. Et puis bien sûr, les nuits de l'after, de minuit à 5h du matin, à retrouver à partir de demain pour suivre les matchs, l'actu des Bleus, les invités, des débats, comme d'habitude, vous le savez, avec nos consultants. On est en direct sur YouTube ce soir, en direct aussi sur Afterfoot TV. Vous êtes très nombreux. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser le nom de la star pour vous de la Coupe du Monde. On attend vos messages aussi sur le WhatsApp 06 12 424 424 et le 32-16, bien sûr. On a un invité dans cet after qui vient de nous rejoindre, c'est Kevin Vessière. Bonjour Kevin.
Bonjour, merci pour l'invitation.
On va dire bonsoir, parce que voilà, même si on est à l'heure américaine, chez nous il est 23h. Je montre ça pour ceux qui sont devant leur écran sur YouTube. C'est donc Mondial 2026, ton nouveau livre, la dernière édition de FC Géopolitique. Tu en as plusieurs, mais là évidemment c'est un nouveau réédité avec des nouvelles histoires à raconter pour ce Mondial à venir.
Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis des nouveaux chapitres sur la Coupe du Monde 2026 où il y a beaucoup de choses à dire, voilà, avec Donald Trump.
Exactement. Bah justement, on va en parler avec toi. On va parler dans un instant également des déclarations de Gianni Infantino. Bon, on retrouve des histoires plus ou moins célèbres, que ça soit du Mondial 1930 jusqu'à aujourd'hui. Il y a par exemple le France-Koweït 1982. Elton, tu ne t'en souviens pas? Tu n'étais pas né?
J'ai regardé la cassette vidéo.
La cassette VHS. Faut savoir
que mes parents avaient des cassettes vidéo de 78, 82 et 86.
Voilà, donc tu te souviens de l'éruption sur le terrain.
Ça s'appelle de la culture foot, de la transmission surtout.
Et ça s'appelle surtout quelle belle répartie. Mais oui. Elton, il est bon.
Le match États-Unis-Iran 98, ça c'est presque un petit peu d'actualité quand même, mais c'était le match de la paix à l'époque. Et voilà, ça avait fait beaucoup parler, c'est dans le livre aussi.
Oui, moi j'avais vu aussi les images en VHS à l'époque.
Hey, ça sert les cassettes. Hein.
Jennifer n'était pas née évidemment à ce
bien
moment-là.
Sûr.
Et puis, il est aussi beaucoup question, tu l'as dit, de cette Coupe du Monde. Tu parles de l'Irak, futur adversaire de l'équipe de France, de Curaçao aussi, pour en savoir plus.
Oui, j'essaye. Enfin, pour l'Irak, le contexte est beaucoup plus, en tout cas, politique. Mais j'essaye aussi de rajouter quelques histoires qui sont géopolitiques, mais un peu plus positives. Et le cas de Curaçao est quand même un exemple intéressant de pays qui peuvent briller grâce à la Coupe du Monde et se faire connaître et qu'on puisse placer Curaçao sur le point d'une carte. À la fin de cette compétition.
Bon, il y a toujours de la politique à la Coupe du Monde. On en parle à chaque fois, à chaque Coupe du Monde. Mais là, cette année-là, j'ai l'impression, Kevin, que c'est peut-être la Coupe du Monde la plus politique de l'histoire.
Ah oui, c'est la plus politique de l'histoire. Après, dans les histoires que je raconte, on prend souvent aux éditions de 1934 ou de 1978. Je pense que c'est pas les bonnes Coupes du Monde à analyser parce que c'était pas la même époque. Et puis la Coupe du Monde d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande. Elle est vue par 5 milliards de téléspectateurs. Dans les éditions avec lesquelles il faut les comparer, c'est Russie 2018 et Qatar 2022, qui étaient déjà très politiques parce qu'en amont, il y avait en tout cas des questions autour d'appel au boycott, aussi des conditions d'organisation, en particulier au Qatar, aussi la critique du régime autoritaire qui organise cette compétition à travers Poutine et aussi avec le Qatar. Mais finalement, en amont de ces compétitions, il y avait quand même ces pays-là, malgré en tout cas leur déboire, il y avait la volonté d'accueillir le monde, en tout cas au niveau de cette Coupe du Monde, et de faire une sorte de parenthèse sportive durant cette compétition. Et après, une fois que, en tout cas, il y a eu ces polémiques politiques en amont, une fois que la compétition a été lancée, on a retenu en tout cas finalement la Coupe du Monde et le fait sportif. Là, ce qui se passe, c'est que les États-Unis et cette Coupe du Monde, c'est le reflet de la politique des États-Unis de ce qui se passe à l'international. C'est qu'ils imposent un rapport de force, ils imposent leurs règles, et donc si on s'adapte pas à leurs règles, en gros, tu n'as pas le droit de venir voir la Coupe du Monde, ou tu n'as même pas le droit de venir la supporter. Et c'était le cas notamment avec cette fameuse liste noire de Donald Trump, où il y a des ressortissants de pays qualifiés qui ne peuvent pas venir, donc Haïti, Cap-Vert, Sénégal et Côte d'Ivoire. Et ça va aussi sur cette question migratoire, avec cette question de savoir si la police migratoire américaine sera présente aux abords des stades.
Évidemment, alors tout ça, on va en parler, et aussi ça, c'est aller sur le terrain du sportif avec le cas, et vous en avez parlé d'ailleurs hier, de cet arbitre somalien. C'est vraiment voilà, qui ne peut pas participer à la Coupe du Monde. Donc tout ça, on va en parler, et on va en parler puisque Gianni Infantino lui-même a dû réagir aujourd'hui en conférence de presse. Corentin Roland a écouté ça pour nous. Salut Corentin.
Salut, bonsoir.
Tu t'es régalé à écouter Gianni Infantino, cette conférence de presse habituelle, on va dire, avant une ouverture de Coupe du Monde. Mais là, elle était très attendue parce qu'il y avait plusieurs dossiers importants.
Elle était très attendue, elle était très longue aussi, elle a duré plus d'une heure, et d'ailleurs c'était davantage une allocution qu'une conférence de presse, puisqu'avant d'écouter la petite dizaine de questions des journalistes, le président de la FIFA a commencé par un monologue de 35 minutes, donc 35 minutes c'est long quand même. Ouais. Et dès ses premiers mots, il a pris les devants. Je cite, je voudrais vous demander, donc il parle aux journalistes, de vous focaliser sur le football. Sous-entendu, ne pas trop évoquer dans cette conférence de presse les affaires diplomatiques et géopolitiques. Et il l'a répété ensuite, ça n'a rien à voir avec le football. Mais il a quand même été, et il n'avait pas très envie, pardon, d'être relancé sur ces sujets, donc il les a évoqués de lui-même. D'abord sur l'Iran, qui est en pleine guerre donc avec les États-Unis. L'équipe nationale est à Tijuana, au Mexique, devra arriver en veille de match à Los Angeles. Et Gianni Infantino s'est félicité de la gestion du dossier. Écoutez.
Let me say that on Iran, je suis ravi de la présence de l'Iran. Je leur avais promis qu'ils participeraient à cette Coupe du Monde. Et s'il avait fallu aller les chercher moi-même en bus à Téhéran, je l'aurais fait. Il y a bien sûr des défis à relever, mais lorsque l'Iran jouera, j'espère que l'ambiance sera positive. Et je suis fier du travail accompli par mon équipe.
Voilà, donc on parlera de ce dossier de l'Iran. Gianni Infantino qui a ensuite enchaîné avec la grosse polémique de ces 24 heures.
Oui, l'arbitre somalien Omar Artan, ouais, qui donc est un des meilleurs arbitres africains, mais ne participera pas à la Coupe du Monde, puisque la police américaine des frontières a refusé de le laisser entrer sur le territoire alors qu'il avait son visa. Et sur ce dossier-là, Gianni Infantino, lui, il assure que seul le pays hôte peut décider de qui entre ou pas sur son territoire.
Bien sûr, ce qui est arrivé à Omar, l'arbitre somalien, est regrettable. Mais nous ne contrôlons pas tout, nous allons en discuter, chercher des solutions. Parfois, il est peut-être bon aussi de se détendre, de se relaxer. Nous travaillons sur tous les sujets et nous faisons notre maximum pour résoudre les problèmes.
Relax and chill, voilà ce les mots qu'a utilisé Gianni Infantino sur ce gros dossier qui est quand même très sérieux. On va noter que pour terminer, dans ses vœux préliminaires, Gianni Infantino a eu un mot pour demander la libération du journaliste français incarcéré Christophe Glaise. Il l'a même symboliquement accrédité pour la Coupe du Monde.
Ouais, ça c'était effectivement important. Relax and chill, bon, ça pourrait être une publicité, avec la FIFA on n'en est pas loin, peut-être qu'il y aura des t-shirts Relax and chill prochainement aux États-Unis. Merci beaucoup Corentin pour ce point donc sur évidemment cette conférence de presse, ou plutôt allocution conférence de presse de Gianni Infantino. Voilà, quand il dit nous ne contrôlons pas tout, Gianni Infantino, Kevin, c'est vrai que d'habitude, on entend que la FIFA déteste les ingérences politiques. Elle déteste ça par-dessus tout. Et là, c'est quand même un cas exceptionnel d'ingérence sur le terrain du sportif avec, donc, on empêche un arbitre d'exercer son travail.
Bah là, ce qui pose question, c'est que ça touche à l'organisation même de la Coupe du Monde, puisque c'est un officiel de la FIFA et c'est un arbitre qui devait officier pour cette compétition. Et donc, même là-dessus, la FIFA, en tout cas, ne fait pas de déclaration pour montrer qu'ils vont chercher à négocier, même si Gianni Infantino l'a annoncé. Là, c'était plus de dire, on se conforme à la politique migratoire du pays hôte. Ça n'a pas vraiment été le discours qui a été porté pour la Russie 2018 et pour le Qatar 2022. Il y a eu quand même beaucoup de conditions qui avait été mis en amont avec des pays qui étaient aussi dans une volonté de s'ouvrir au monde et d'avoir une meilleure image à valoriser pour que les supporters qui viennent dans le pays puissent après revaloriser cette image en revenant chez eux. Mais il y avait quand même des discussions en amont pour essayer de faire en sorte que tout se passe pour le mieux et qu'il n'y ait pas ce genre de dossier qui arrive lorsque tous les officiels et toutes les équipes vont arriver sur le terrain. Là, on a soit l'impression qu'il y a un manque d'anticipation de la FIFA, soit que finalement la FIFA elle s'est conformée aux directives des États-Unis parce que c'est la première puissance mondiale et parce que Gianni Infantino il navigue un peu seul dans cette FIFA qu'il a en tout cas personnifié et qui le gère en tout cas d'une main de fer et qu'il ne veut pas en tout cas finalement fragiliser sa relation qu'il a pu construire avec Donald Trump, une relation qui ressemble plus à une relation de sens unique et qui était symbolisée par la remise de ce prix absurde de ouais, prix de la paix de la
prix
FIFA.
De la paix, ça c'était au moment du tirage au sort effectivement. Mais est-ce que la FIFA se ridiculise là dans tout ce qu'on voit quand on entend Gianni Infantino, il est même impuissant, c'est ce qu'il dit hein, face aux États-Unis, Donald Trump.
Non mais sincèrement François, moi quand j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la conférence de presse de Gianni Infantino, à la fin j'avais juste envie d'une chose, c'est lui donner le prix Nobel de la paix en 2026, à la fin de l'année 2026, parce qu'il se félicite justement d'avoir tout fait pour que l'Iran puisse disputer la Coupe du Monde, alors que dans l'absolu l'Iran s'est qualifié sur le terrain. Il se félicite enfin également d'avoir contribué à ce que Haïti et Cap-Vert soient davantage connus dans le monde, alors que dans l'absolu, ces deux pays se sont qualifiés sur le terrain. Il dit également
oui,
qu'il
mais
a...
s'ils se sont qualifiés, lui, il va te dire, c'est parce que justement, on a élargi la Coupe du Monde.
Ouais, mais voilà, donc il s'attribue, moi, sur cette conférence de presse, qui encore une fois, là, j'ai utilisé l'ironie, mais dans l'absolu, elle est pathétique, parce qu'il y a une allocution de 35 minutes et 10 questions qui sont quand même... Il y a des réponses qui sont quand même très évasives. En fait, il se félicite, il s'accorde des mérites sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc moi, c'est pour ça que oui, évidemment, la FIFA se ridiculise, mais ça s'inscrit notamment dans un contexte où on parle d'une institution qui est dépassée et qui subit un rapport de force du côté des États-Unis.
Mais la FIFA n'est pas dépassée. La FIFA est complice de tout ça. La FIFA est à la botte de Donald Trump depuis bien longtemps. Gianni Infantino, il a été élu avec toutes les voix de la CAF en échange de faveurs. On est en train de parler. Gianni Infantino, aujourd'hui, c'est juste un homme d'État, un État de plus, limite un État de plus américain, et il fera tout ce que Donald Trump lui dit. Et l'écouter et prendre même le temps d'analyser ses déclarations, mais c'est de la perte de temps. Il fait de la politique, Gianni Infantino, il n'en a rien à faire. Il voulait que cette Coupe du Monde ait lieu aux États-Unis. Elle a lieu aux États-Unis selon les conditions dictées par Donald Trump. Et tout le reste, il s'essuie les pieds comme si les journalistes et le reste du monde, c'était des paillassons. Et il n'en a rien à faire, en fait. Donc, il a dit ci, il a dit ça. Au final, cette Coupe du Monde, elle a lieu dans des conditions scandaleuses, avec des fans qui ne peuvent pas être là, avec des équipes qui vont devoir voyager dans des conditions qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est déjà un scandale. Donc, bon, un de plus, un de moins, est-ce que ça vous choque ?
Maxime.
Mais surtout, après, il y a une réalité. Alors, nous, on parle en tant que fans de foot. Évidemment, cette Coupe du Monde, c'est l'événement à ne pas manquer. On est tous très excités à l'annonce, justement, du début de cette Coupe du Monde. Mais il y a une réalité aussi, et on l'a très justement dit un peu plus tôt, c'est qu'il y a une politique migratoire aux États-Unis qui est actuellement très sensible, et que même si on adore le foot, eh bien, le football n'est pas au-dessus des lois et n'est pas au-dessus de la politique migratoire des États-Unis. Donc, alors, je suis pas ou peu surpris, bien évidemment. J'aurais préféré ne pas avoir ce genre d'histoire, par exemple, en ce qui concerne l'arbitre, je trouve ça scandaleux. Après, pour revenir par rapport à Infantino, il y a une réalité, c'est qu'il essaie de défendre son bilan, mais on le sait très bien que c'est un peu la marionnette de Donald Trump. On sait très bien qu'il n'avait absolument aucun pouvoir, lui qui est uniquement président d'une institution, football. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quel est le poids de la FIFA par rapport à un pays comme les États-Unis. Donc lui, pour répondre à ta question, François, pour moi, la FIFA est se décrédibilise complet. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la FIFA n'a aucun pouvoir pour pouvoir changer la politique migratoire américaine. Et si ça avait été le cas, comme Infantino l'a dit, comme quoi il a fait le maximum pour que l'Iran puisse être là, la réalité, c'est que l'arbitre aurait pu être là, l'arbitre somalien. Donc voilà, il faut aussi remettre dans le contexte. Actuellement, il y a une actualité géopolitique qui est très sensible aux États-Unis. Et même si la Coupe du Monde est organisée sur son territoire, je savais très bien que Donald Trump n'allait pas changer ses règles. Parce qu'encore une fois, ça aurait aussi décrédibilisé le discours qu'il a depuis si longtemps. Et là, je parle uniquement d'un aspect géopolitique. Et donc voilà, il faut, je pense, remettre aussi les choses dans leur contexte. Et même si on aime beaucoup le football ne prend pas le dessus sur les lois dans un pays comme les États-Unis.
Kevin Vessière.
Oui, en fait, la question qu'on se pose, c'est que là, on voit qu'Infantino, il a un peu mis sa crédibilité en jeu sur le dossier iranien, parce que pour lui, c'est vraiment grâce à lui que l'Iran va jouer cette Coupe du Monde. Mais la question qui se pose, c'est que, imaginons que l'Iran n'arrive pas à se rendre sur le sol américain par décision de Donald Trump. Finalement, Infantino est décrédibilisé, mais qui derrière va pouvoir remplacer Infantino, parce que dans son organisation, finalement, il a été réélu pour une troisième fois par applaudissement. Il est à la tête du musicien du football qui représente 211 fédérations nationales qu'on peut parfois apparenter à des États. Il est attendu finalement sur les revenus qui vont être associés à cette Coupe du Monde. Oui. Donc on parle de 13 milliards de revenus. Et donc derrière, même si il est décrédibilisé là-dessus et qu'il y aura moins de spectateurs dans les stades.
Oui, tu veux dire qu'il sera quand même réélu.
La Coupe du Monde, ça reste un événement télévisuel, donc on peut faire beaucoup de choses au niveau de la télé. Et après, s'il y a des téléspectateurs qui seront au rendez-vous, là-dessus, il ne sera pas décrédibilisé parce que derrière, il aura les revenus qui seront associés à cette Coupe du Monde.
Ça, c'est un détail qui est très important et c'est pour ça que je suis très content d'avoir Kevin, que je lis avec beaucoup d'intérêt. Tu pourrais revenir notamment sur l'influence qu'a eu les États-Unis, notamment au milieu des années 2010, à une époque où justement la FIFA qui sortait notamment FIFA Gate, Blatter qui a été viré, qui a été même dégagé, et économiquement la FIFA qui était pas au mieux et qui a coïncidé justement avec l'arrivée d'Infantino qui était à la recherche notamment de fonds, et c'est précisément là où arrivent les États-Unis.
Oui, il y a une très bonne enquête du Monde qui a pu en parler récemment. C'est que, en tout cas, les États-Unis, ils ont perdu l'attribution de la Coupe du Monde 2022 face au Qatar.
C'est le point de départ, le 2 décembre 2010.
Et donc après, les États-Unis vont commencer à enquêter sur cette FIFA, qui est une organisation assez nébuleuse. Et en enquêtant, ils vont se rendre compte, donc après, au niveau de comment les dossiers arrivent, c'est encore plus parfois folklorique. Mais avec 2015, tu auras ce FIFA Gate avec cette enquête du FBI et qui va faire tomber Sepp Blatter et un Gianni Infantino qui va chercher à se faire réélire et qui va utiliser notamment le soutien des États-Unis pour se faire réélire, après avec effectivement cette logique de faire en sorte que la FIFA soit une organisation qui soit meilleure économiquement, et quoi de mieux de s'associer à la première puissance mondiale et aussi à des États-Unis qui savent en tout cas faire du sport un show, un divertissement et en tout cas un événement économique.
Bon, Kevin, tu restes un petit peu avec nous, hein. On va faire une toute petite pause. J'aimerais quand même vous poser cette question ensuite. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de boycott avant la Coupe du Monde au Qatar. On n'entend pas beaucoup, même pas du tout, parler de boycott avant cette Coupe du Monde aux États-Unis. Est-ce que les acteurs de la Coupe du Monde, les arbitres, les joueurs, doivent monter au créneau? C'est la question que je vais vous poser dans un instant. Restez avec nous. On revient tout de suite dans l'After en direct sur YouTube, en direct sur RMC. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
François Pinet.
Jennifer Mendelevitch qui a hâte que cette Coupe du Monde commence.
Oui, j'en ai marre d'attendre. Je ne suis pas quelqu'un de patient, vous le savez tous.
Elle attend au Mexique, Afrique du
Sud. Elton Mokolo qui ne va pas dormir. Pensez à lui parce qu'il va regarder tous les matchs.
104 matchs.
Tous,
104,
tous les regarder.
104. 104.
104.
C'est le chiffre.
104.
Il y aura un décompte.
Non, mais tu vas les regarder tous en direct ou certains parfois quand même.
Il y aura un décompte qui sera fait en direct.
Tu vas tous les regarder en direct?
Écoute, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, c'est l'objectif.
D'accord. Tu doutes des capacités d'Elton?
Non, là, en pleine nuit, quand même.
C'est pas beau.
Par exemple, Corée du Sud, Tchéquie, à 4h du matin, qui sera en direct sur RMC et sur la radio digitale.
Deuxième match de la Coupe du Monde.
Deuxième match de la Coupe du Monde dans la nuit de jeudi à vendredi.
Si c'est le 50e match de la Coupe du Monde, à la limite, on peut discuter, mais là, c'est le deuxième match, ça va, t'es sur la lancée.
Moi, je vais le regarder aussi.
Bah oui.
Moi, tu sais que je me mettais ça comme objectif quand j'étais petit, c'était de regarder tous les matchs.
Bien sûr.
À chaque fois, j'y arrivais pas.
Après, je pourrais pas regarder tous les matchs.
Le problème, c'est que j'ai des enfants.
Je pourrais pas regarder tous les matchs. Il y aura des matchs pour de la troisième journée. Ouais. Forcément, c'est plus compliqué.
Eh oui, ça, c'est sûr. Maxime Chano, à New York aussi. Toi aussi, tu vas regarder tous les matchs.
Moi, je vais les regarder au stade, voilà, si vous voulez savoir.
Ah là là là, il est insupportable depuis le début de l'émission. Ah là là.
Je vous ferai des petites vidéos. Je vous
dis ça pour Garden et ne revient plus jamais.
On va voir si tu pourras faire Miami Kansas dans la journée.
Bon, on est avec Kelly.
Je pense que que je vais réfléchir à deux fois quand même, c'est vrai.
On est avec Kevin Vessière, FC Geopolitics. Ça, c'est le compte, le média à suivre sur Twitter pour bien sûr être au courant de toutes les affaires géopolitiques du foot, parce que c'est un spécialiste de géopolitique dans le sport et dans le foot. Avec donc cette nouvelle édition mondiale 2026, franchement, c'est super. Il y a plein d'histoires qu'on ne connaît pas. Par exemple, sur l'Inde en 1950. Voilà, les Indiens étaient à la Coupe du Monde en 1950.
Ben, j'ai appelé ça Inde, le rendez-vous manqué, parce qu'ils sont qualifiés sportivement pour la Coupe du Monde. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Hein. Il y en avait une dizaine, quoi. Et finalement, on se rendait compte à l'époque que la grande histoire, c'est-à-dire que l'Inde ne participait à cette Coupe du Monde parce que les joueurs jouaient pieds nus, du fait en tout cas de leur religion. Et finalement, on se rend compte, en fait, en creusant un petit peu l'histoire, que c'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'à l'époque, 1950, on sort de la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de sélections qui sont qualifiées sportivement, notamment la Turquie et l'Écosse, mais qui veulent pas se rendre au Brésil parce que ça coûte trop cher. La France sera aussi repêchée et finalement, ils vont pas participer parce qu'ils voudront pas se rendre, ça coûte trop cher. Et l'Inde, ce sera pareil. Ils vont prioriser plutôt les Jeux Olympiques que la Coupe du Monde, parce que les Jeux Olympiques, ils peuvent remporter des médailles, notamment au hockey sur gazon. Et donc, c'est pour ça que l'Inde participe pas à cette première Coupe du Monde. Et donc, depuis, ce géant démographique se fait attendre pour cette première compétition.
Tu veux dire que c'est une erreur historique?
Ah non, parce qu'après, comme je l'évoque, au niveau de l'Asie, t'as quand même un tournant avec les années 90 où t'as quand même des nations qui investissent dans le football et qui commencent à se faire un nom, comme le Japon, la Corée du Sud. Bon, la Chine aussi se fait
attendre. L'Inde a tenté, hein, ils ont fait leur championnat, on s'en souvient, mais bon, oui, ça n'a pas fonctionné. Robert Pires est allé en Inde.
David Trezeguet,
Materazzi aussi.
Ouais. Maxime Chano, jamais, étonnamment.
Non, bah écoute, je suis resté au niveau, moi.
Excuse-nous. Tiens, on va retrouver quelqu'un qui, lui, n'est pas à New York, mais à Mexico. On est partout dans cet after veille de Coupe du Monde oblige. Mexico va avoir lieu le premier match de la Coupe du Monde. C'est Edgar Grollo qui est en direct. Salut Edgar.
Salut François, salut tout le monde.
Salut.
Edgar qui est passé de Madrid.
Je vais essayer de rivaliser avec Elton sur le fait de regarder les matchs. Non, mais
moi,
bon, ça va être difficile.
Pas de soucis pour toi.
Non. Edgar, ouais, ça va être
compliqué. Au moins, j'ai pas le décalage horaire.
Ouais. Mexico demain 21h au stade Azteca. On va pouvoir en parler de ce stade mythique pour les plus jeunes. Ça sera donc à suivre sur RMC. Mexique, Afrique du Sud. Edgar, donne-nous un petit peu l'ambiance avant de nous parler de cette rencontre et puis de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que dans la capitale mexicaine, là, on sent que la Coupe du Monde, c'est demain?
Oui, j'ai senti. Alors nous, on est arrivé hier soir avec Jean-Louis Tour, et c'est vrai qu'en se baladant un petit peu, on voit tout de suite tous les maillots qui sont de sortie, d'autres qui essaient d'être vendus, beaucoup de maillots mexicains aussi, mais beaucoup de maillots sud-américains. J'ai vu des Brésiliens alors que leur équipe n'est pas concernée par ce premier match. On a vu évidemment des Sud-Africains aussi. On sent que ça monte. C'est une ville aussi qui, j'ai envie de dire, colle beaucoup avec l'esprit Coupe du Monde, parce que c'est très coloré, il y a de la musique partout, et d'ailleurs, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, tout le monde est très chaleureux et très content d'accueillir le monde pour cette Coupe du Monde. Et donc en ville, c'est vrai que l'ambiance monte petit à petit. Et après, il y a le stade Azteca où je suis aujourd'hui et en ce moment, c'est vrai que ça, c'est encore en train de se construire, de se mettre en place. On voit tous les stands qui sont en train d'être mis. On est en train de visser les dernières vis, serrer les derniers boulons. C'est en train de se mettre en place. On sent que c'est pas encore à 100% prêt sur les tout derniers détails. Ce sera prêt évidemment pour demain 13h ici, heure locale pour le match d'ouverture. Mais en tout cas, on sent qu'on est bien dans une ville de Coupe du Monde.
Ouais, les boulons, c'est pas pour le stade, rassure-nous quand même, parce qu'il va y avoir du monde dans le stade.
Non, c'est pour les stands de Coca-Cola.
Ah oui, ça va. Ah oui.
Voilà. Non. Le stade, c'est bon.
Si tu nous parques, Edgar.
Ça y est.
Celle que j'ai devant moi, c'est une marque de bière, donc c'est pire.
Non.
Il y a le Home Depot. Voilà.
Les sodas, vous connaissez. Justement, ce stade Azteca. Hein, pour les plus jeunes, vous savez quel événement a eu lieu dans le stade Azteca, là je demande, là, la volée, est-ce qu'il y en a
70,
un
70,
Pelé,
bien sûr.
86, Maradona.
La main de Dieu.
Ah oui, la main 86. De Dieu.
C'est dans ce stade Azteca, c'est ça, hein, Edgar. Hein.
Exactement, ça va être le premier stade de l'histoire à accueillir trois Coupes du Monde, c'est-à-dire 1970, 1986 et donc 2026. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas la finale, mais il y aura au moins le match d'ouverture. Et c'est vrai que Pour les Mexicains, c'est aussi important de se dire que ils ont eu la Coupe du Monde, l'une des Coupes du Monde de Pelé, ils ont eu Maradona, et aujourd'hui, même si on verra par exemple l'Argentine, pour l'instant il n'y a aucune certitude qu'ils jouent dans ce stade-là, mais pour eux c'est aussi important que ce soit une Coupe du Monde, pas n'importe laquelle, c'est aussi la Coupe du Monde de Messi, de Cristiano Ronaldo. Je veux dire, oui, il y a eu trois Coupes du Monde au Mexique, mais c'est vraiment trois Coupes du Monde, en tout cas les deux premières, qui sont légendaires, et peut-être, pourquoi pas, une troisième. Donc c'est une vraie fierté ici, et le stade Azteca, évidemment, c'est un stade mythique, c'est un stade aussi qui a vécu toutes ces dates-là et qui a continué d'évoluer à travers le temps, en réduisant un petit peu sa capacité, en changeant aussi, en se modernisant. Voilà, c'est vraiment un lieu assez unique, et on sent en tout cas, dès qu'on arrive ici, tout cet héritage, même si pour l'instant il n'y a pas encore de football. Alors je vous dis ça, il y a le Mexique et l'Afrique du Sud qui vont s'entraîner d'ici quelques minutes, mais pour l'instant on voit surtout des personnes de la police nationale du Mexique. Il y en a des centaines tout autour, c'est ultra sécurisé, et pour l'instant il n'y a pas encore les supporters, donc c'est vrai que on n'est pas tout de suite dans l'ambiance qu'il y aura demain.
On parle pas du Mexique qu'il y a dans ton livre, Kevin Vessière.
J'en parle un peu, mais j'en parle pas en chapitre dernier.
Ouais, voilà, il y a pas de chapitre.
C'était une finale aussi au stade Azteca de la première Coupe du Monde féminine, mais officieuse.
Ah oui.
Donc en 71, où t'as aussi du coup ce match-là. Et je parle aussi du fait qu'en 1986, normalement, c'est la Colombie qui devait organiser la Coupe du Monde.
C'est vrai.
Mais du fait que t'avais en tout cas le narcotrafic, ils ont dû abandonner cette organisation, et c'est le Mexique qui s'est retrouvé organisateur.
Et donc il y aura une cérémonie, il y aura trois cérémonies d'ailleurs pour cette Coupe du Monde, hein. Voilà, Mondial XXL cette année, cérémonie attendue demain. Est-ce qu'on a quelques petits détails de cette cérémonie, Edgar Grolot? Est-ce que tu vas pouvoir prendre le micro, chanter, danser, toi aussi?
Moi je sais pas, mais en tout cas ça va faire comme si Elton regardait un match de plus, puisque ça va durer 90 minutes.
Wow. Voilà,
ça va être assez long. Il va y avoir un grand spectacle. Alors c'est la première cérémonie d'ouverture, puisque après il y en aura aussi une aux États-Unis et une au Canada, mais c'est peut-être quand même la plus importante, puisque c'est le premier match. Il va y avoir beaucoup d'artistes, notamment et évidemment Shakira, qui est un symbole des coupes du monde, hein. Ça a commencé depuis bon, bah tu étais concentré sur le foot, mais pour nous autres, Shakira c'est quand même un monument de la Coupe du Monde. Et il y a aussi d'autres artistes très connus, J Balvin, je sais pas, on verra comment les positionner sur le terrain. Mais non, il y aura J Balvin, il y aura Tyla aussi, la star sud-africaine. Voilà, il y aura beaucoup de très beaux.
D'accord. Bon, on a hâte d'y être quand même. Je sais pas si vous êtes fan des cérémonies d'ouverture en règle générale. Bon, Elton pas trop.
Il y a peut-être une probabilité pour que je fasse l'impasse.
Voilà. Non, Maxime, non.
Ouais. Garde tes forces.
C'est dur.
Mais ce qui est important, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'Elton préfère regarder les matchs plutôt que les cérémonies d'ouverture.
Oui. Bah oui, encore heureux, bien évidemment. Oui.
Il aime pas la chanson, tout ça, ouais. La musique.
Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse. Non, mais
surtout que le match après, l'affiche, elle est quand même, je trouve, géniale pour une cérémonie d'ouverture. Ça nous rappelle évidemment 2010.
Bien sûr.
Mexique, Afrique du Sud, ces deux nations qui nous parlent tout de suite quand on pense à une Coupe du Monde. On pense Mexique, on pense Afrique du Sud, elles font partie de ces nations.
C'est pas un bon souvenir, Mexique, Afrique du Sud, dans le groupe de la France.
Mais là, je reprends mon sérieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a parlé du Mexique, et je me tourne vers Kevin, c'est qu'on parle du Mexique et du Canada qui, au final, les États-Unis vampirisent notamment l'actu, et que eux, ils ont des rôles annexes, alors que dans l'absolu, on parle de pays qui vont également qu'organiser la Coupe du Monde.
Et c'est intéressant, vas-y.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout à l'heure, on a parlé de la Coupe du Monde la plus politique. Moi, j'aimerais émettre une nuance en parlant de la Coupe du Monde la plus géopolitique, parce que c'était la volonté d'avoir United 2026. Et on a ces trois pays qui sont quelque part fracturés. On a eu les déclarations de Trump par rapport au Canada. On connaît les problématiques entre les États-Unis et le Mexique. Et malgré tout, ces trois pays sont alignés pour organiser de manière commune la Coupe du Monde.
Après, si on reprend l'historique et la genèse de cette candidature, a été plutôt faite dans une période des années Obama, où on avait plus en fait une volonté de réaffirmer les relations Mexique, Canada, États-Unis, pour réaffirmer cette organisation qui est l'ALENA, en tout cas entre ces trois pays-là. Et après, par contre, sur le dossier de candidature, ça a toujours été le cas que c'était les États-Unis qui allaient avoir le plus de matchs.
Ça, parce
que c'est eux qui ont les stades, en tout cas les plus modernes, pour faire le show à l'américaine. Par contre, après, c'est vrai que on aurait pu s'attendre avec ces 104 matchs à ce que le Mexique et les États-Unis aient plus de place dans sa compétition. Et là, je crois que à partir des quarts de finale, t'as plus de matchs au Mexique.
Le dernier match du Mexique,
Canada.
C'est huitième de finale.
Ce qui est intéressant aussi, et c'est là où je voulais rebondir, c'est que le Mexique, par exemple, on parlait de l'Iran tout à l'heure. Tout de suite a dit, nous, on accueille l'équipe iranienne sur notre sol à quelques heures de la frontière, à Tijuana, pour permettre à l'Iran justement de faire cette Coupe du Monde.
Et Infantino, en mars, effectivement, quand il se vante d'être allé voir l'équipe d'Iran, il a dit non, l'équipe d'Iran va jouer sur le sol américain, mais il aurait déjà pu anticiper la situation et de se dire, on va faire les matchs sur le sol mexicain, parce que une guerre entre deux pays, ça va pas se résoudre en trois mois.
Complètement.
Pour lui, alors il va vivre dans une certaine utopie. Le ballon rond, ça peut permettre en tout cas de faire en sorte de serrer les mains et de mettre en place la paix. Il y a aussi une autre scène iconique qui montre que Infantino vit dans son monde. C'est qu'il y avait une cérémonie où il y avait le président de la Fédération israélienne de football et le président de la Fédération palestinienne de football. Il a voulu leur faire serrer la main, mais les deux ne sont pas serrés la main parce qu'il y avait toujours un conflit extrêmement présent. Et lui, il pense qu'avec un ballon rond, tout peut se résoudre. Mais là, la question qui va se poser pour lui, c'est effectivement, est-ce que les joueurs iraniens vont bien se rendre sur le terrain? Et s'ils se rendent sur le terrain, la FIFA qui dit pas de message politique.
Ah oui,
qu'est-ce qu'ils peuvent faire si les joueurs iraniens veulent prendre des positions
politiques? Moi, le match Iran-Nouvelle-Zélande, il va être très très important parce qu'on l'a évoqué hier. On l'a évoqué hier. Pour moi, les humiliations.
Il est de nuit, le match.
Pour moi, les humiliations amènent des ressentiments et les ressentiments amènent des manifestations potentiellement politiques. Et moi, je ne peux pas croire que l'Iran-Nouvelle-Zélande. Peut y avoir une action.
Ça va être assez intéressant de voir justement comment les supporters américains vont réagir à ce match-là. Est-ce qu'il va y avoir des messages en tribune? Moi, c'est un petit peu mon point d'interrogation, là où je suis un petit peu inquiet.
Bon, on va voir ce que des joueurs, ce que ça donnera. Mais... Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jennifer, on en parlait tout à l'heure. Pour le Qatar, il y a eu des fédérations, certaines fédérations qui parlaient d'un boycott carrément de la Coupe du Monde. Alors bon, ça ne s'est pas fait.
Ça ne se fait jamais.
Voilà, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, il y avait cette volonté-là de le dire. Là, pour le coup, personne ne dit rien sur cette Coupe du Monde.
Je crois que c'est aussi un petit peu difficile de vouloir faire porter, parce que les seuls qui ont le vrai pouvoir d'un boycott qui serait efficace, ce serait les joueurs et c'est tout. Ou alors l'UEFA et d'autres confédérations. Mais quand on voit que l'arbitre qui n'a pas pu venir aux États-Unis, à peine rentré chez lui, il dit je remercie la FIFA et je remercie la CAF pour leur soutien et leur action. On comprend en fait que tout ça est un système tellement vérolé de l'intérieur, tellement hypocrite, que même avoir la simple idée d'un boycott, il y a personne en fait qui veut agir à ce niveau-là. C'est tellement plus facile de dire on met tout ça de côté, on va aller faire notre Coupe du Monde. Nous, ce qui compte, c'est le ballon. Une fois qu'on a dit ça, on a résumé l'action et la possibilité d'action de Gianni Infantino, parce que il fait croire à tout le monde, comme vous le disiez, qu'avec un ballon on peut tout résoudre. Non, pas du tout. Il est pas du tout naïf. Il sait que ce n'est pas le cas, mais il essaye d'en tirer profit personnellement et c'est là qu'est le souci. Mais aujourd'hui, je pense que l'idée d'un boycott, de toute façon, elle ne pourra provenir que des joueurs, et on voit que les boycotts des joueurs, finalement, les actions ne sont jamais concertées, les syndicats de joueurs ont bien peu de pouvoir, les joueurs n'ont pas tous les mêmes opinions et il faut le respecter quand il y a
et surtout quand on parle de politique, en fait c'est quand même un domaine qui est très très glissant. On l'a vu avec Kylian Mbappé à l'échelle de la France. Dès qu'un joueur prend position, il va forcément être critiqué. Donc bon, je me place en tant qu'ancien joueur. Est-ce que les joueurs, justement, dans une compétition comme celle-ci, ont envie justement de se mettre en porte-à-faux, entre guillemets, d'un point de vue géopolitique?
Peut-être, je suis pas mais convaincu. C'est
d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas non plus leur.
C'est
pas
des
non
problématiques
plus finalement ce qu'on leur demande.
Qui peuvent aussi les toucher. Quand on voit la façon.
J'en suis convaincu d'ailleurs.
Quand on voit la façon dont sont. Ne serait-ce que le fait qu'on interdise à des supporters de venir, déjà, normalement, ça devrait questionner les joueurs. Mais ils n'arrivent déjà même pas à faire des actions coordonnées quand il y a trop de matchs au calendrier, quand il y a des problèmes de réglementation, etc. Donc, quand il y a des lofts dans des clubs.
Il y aura des déclarations. On attendra peut-être la déclaration d'un Kylian Mbappé, par exemple, sur ce qui se passe si jamais il y a des
polémiques. Ce serait déjà courageux, mais ça n'aura aucune conséquence.
Ils vont être interrogés, en tout cas.
Hein, ils peuvent être interrogés.
Ils n'ont pas botté en touche. Parce que c'est vrai qu'en règle générale, moi je me souviens aussi, justement quand j'étais aux États-Unis, notre attaché de presse de New York City Football Club nous disait, si on vous parle de politique, notamment pendant
la
guerre.
Oui, parce qu'ils avaient peur de la réponse. Ils se sont dit, oulala.
Voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on nous demandait. Ça, c'est une autre question.
Non, je plaisante, Maxime.
Mais en tout cas, François, non, mais c'est en tant que joueur, est-ce que tu as envie de te mettre justement en porte-à-faux? Alors, encore une fois, c'est aussi des sujets que tu ne maîtrises pas forcément en tant que footballeur.
Ils ne seraient même pas soutenus, ni par leur fédération, ni par leur confédération. Donc, ça n'aurait aucun sens.
Parce que tu l'as bien dit, à la différence du Qatar, où au Qatar, on avait plutôt un message qui était institutionnalisé de la part de certaines fédérations. Et c'est en ça qu'on peut noter un certain double discours par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais tu ne peux pas demander aux joueurs d'y aller en frontal.
Bon, on va remercier Kevin d'être passé. Kevin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette Coupe du Monde à venir. Tu vas regarder les matchs quand même.
Oui, je vais regarder les matchs.
Ou tu regardes tout ce qui se passe dans les tribunes, s'il y a des gestes politiques.
Je suis jeune papa depuis un mois, donc les nuits, je vais les passer
comme
devant
ça,
les matchs.
C'est bien.
Mais parfois, je rends utile à l'agréable.
Pour revenir sur cette question de boycott, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que en fait, un boycott qui viendrait d'une fédération, c'est très, très lié à une décision aussi politique liée à la relation entre États. Et aujourd'hui, en fait, faire un boycott, c'est adresser un message négatif aux États-Unis. Et il n'y a aucun pays qui veut se mettre à dos les États-Unis malgré leur image détestable et leur statut, en tout cas, de puissance prédatrice retrouvée. Donc il n'y aurait pas pu avoir ces actions-là en amont.
En revanche, je pense que tu vas être sur le pont quand même, et peut-être qu'on t'appellera et tu reviens quand tu veux dans l'after, hein, bien
plaisir.
Sûr, pour parler de ce qui va se passer autour du terrain. Il va s'en passer des choses, c'est sûr. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez lire ce nouvel ouvrage Mondial 2026 aux éditions Max Milo, Kevin Vessière, FC Géopolitique. Vous pouvez retrouver aussi sur Twitter, hein, c'est ça, sur X.
Twitter, Instagram.
Instagram, Oli, partout maintenant pour parler de foot et de géopolitique. Merci beaucoup, Kevin.
Merci.
Et à très bientôt. Merci Edgar aussi, qui va se préparer pour sa cérémonie d'ouverture et surtout son match.
À très vite.
Mexique,
après. J'ai réalisé les paroles de Waka Waka.
Ah, Waka Waka, c'est trop tard, ça, Waka Waka. Il y a une nouvelle chanson. Là,
moi, j'espère qu'elle va le faire quand même. Attends, moi, je serais déçu si elle le fait pas.
Bah, elle a fait un nouveau titre, tu vois.
Bah, si, attends.
Il y a 90 minutes.
Elle peut faire les deux. Non, mais la cérémonie, dure 1h30, tu vas me dire qu'il n'y a pas le temps pour 2 minutes 30 de Waka Waka.
Attends, t'as l'air très bien informé. C'est quoi la chanson? Alors,
moi, je vais te dire déjà. Je te donnerai les infos dans un instant parce qu'il y a une chanson de Shakira, une nouvelle là.
Ouais. Voilà. Ah ouais, toi, tu lâches Shazam direct.
Et bien sûr. Et puis, je crois qu'il y a David Guetta aussi qui est prévu pour cette cérémonie d'ouverture. Donc,
au Canada, il y aura même VG Dream.
Ah ouais.
Waouh.
Ah ouais, il s'exporte. Voilà. Hein.
Bon, allez, restez avec nous. On parle musique et foot dans un instant dans l'After Foot, c'est promis. Avec Jennifer, avec Elton et avec Maxime Chano en direct des États-Unis. Et puis on parlera de l'Argentine. Et puis je vous pose cette question, hein, qui sera la star du mondial. N'hésitez pas à vos réponses sur WhatsApp et sur YouTube. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Foot.
François Pinet.
Eh oui, vous l'avez reconnu, Elton. Shakira. L'ami de Maxime Chano, Shakira.
Ouais, et je te cache pas que je bouge pas la tête.
Die Die, t'as pas écouté cette chanson?
Die Die, non, non. C'est la première fois que je l'écoute.
C'est la chanson donc qu'elle a prévue pour cette Coupe du
Monde. Moi.
Jennifer, non, ça te plaît pas?
Moi, je suis à l'ancienne, je reste sur Waka Waka.
Ah oui, d'accord, ok, très bien. Sachez que ce n'est pas l'hymne d'ailleurs officiel du mondial Shakira. Beaucoup font l'erreur, mais nous, dans l'after, on est là pour dire les vérités.
Du coup, c'est quoi l'hymne?
C'est donc David Guetta qui va signer l'hymne officiel avec plusieurs artistes, dont Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion et EJAE, donc qui est visiblement un groupe de K-pop, hein, on avait avisé ça.
Une chanteuse, bah,
une chanteuse de K-pop, voilà.
Ouais.
Andrea Bocelli, d'ailleurs, qui sera à la cérémonie d'ouverture de Mexico, dont on parlait avec Edgar Grollo.
Au passage, il faudrait faire un classement, un ranking des meilleures chansons à l'ouverture de la Coupe du Monde.
Ouais.
Ouais.
Bah,
moi, je suis plus
Waka Waka et non, c'est
non,
tout,
non.
Quoi.
Alors, moi, personnellement, et je dis bien personnellement, j'ai un faible pour la chanson de 98 avec Youssoundour, Axel Red.
Ah ouais. Bon, Jennifer, ça la laisse, elle s'en souvient.
Elle va pas marquer celle-là.
Bon, on va parler foot.
Ah, mais vous êtes pas mélomane, c'est
les goûts et les couleurs finalement.
Bon, 23h41, je crois que c'est justement l'heure d'Elton. C'est parti, avis. L'avis d'Elton. L'avis d'Elton Mokolo, c'est sur l'Argentine, Elton, parce que tu trouves qu'on la néglige un peu. Peu de monde la place peut-être parmi les ultra favoris de la compétition. On parle beaucoup du Portugal, de la France, voire de l'Angleterre. Et toi, tu penses qu'il ne faut pas les oublier dans la conquête du titre mondial?
Il ne faut surtout pas les négliger. Moi, je suis quand même frappé par le côté anonyme au moment de parler de l'Argentine et ses chances de Coupe du Monde, alors que dans l'absolu, c'est la tenante du titre. C'est une équipe qui est quand même première nation FIFA. C'est une équipe qui n'a pas eu de décompression post-2022, qui a remporté la Copa América 2024. C'est une équipe qui pratique, j'ai regardé encore une partie du match contre l'Islande cette nuit, déroule un très bon football. Une équipe qui, pour moi, me paraît beaucoup plus mature qu'en 2022, avec notamment la nouvelle génération qui a pris du galon. Je fais référence à Enzo Fernandez, je fais référence à McAllister, Ruyad Alvarez, des joueurs qui se sont, entre guillemets, ajoutés au squad avec Nico Paz, notamment Thiago Almada. Et moi, quand je regarde les 20 dernières années, parmi les équipes tenantes du titre de la Coupe du Monde et par rapport aux dynamiques lorsqu'elles arrivaient juste avant cette épreuve internationale, l'équipe d'Argentine, c'est l'équipe qui me paraît la mieux préparée. Donc c'est pour ça que moi, ce que je reproche, c'est qu'on a un regard un peu trop européen, c'est-à-dire qu'on va mettre spontanément en avant la France, l'Espagne, l'Angleterre, voire même le Portugal, et on a un peu oublié ce que faisait l'Argentine sur ces deux dernières années. Peut-être que c'est dû au fait que l'Argentine, on la regarde principalement à travers un Lionel Messi. Lionel Messi, ouais, est parti du côté de l'Inter Miami, donc forcément on a moins de son, on a moins d'images, mais on s'aperçoit que lors des éliminatoires de Coupe du Monde, ils ont battu à deux reprises le Brésil, et le deuxième match, ça a été un éclat. Ils sont allés gagner du côté de l'Uruguay, ils ont terminé avec 9 points d'avance sur l'Équateur. Donc moi, c'est pour ça que moi je me dis que l'équipe argentine est capable de faire, de réaliser un deuxième back-to-back après la Copa América, d'aller au bout de la compétition et à la Coupe du Monde, en sachant que c'est une équipe expérimentée, qu'elle est passée notamment par ce côté, on a gagné, et donc forcément on peut avoir notamment cette forme d'euphorie. On l'a vu en Ligue des Champions avec le PSG qui a été capable de faire un back-to-back. Donc c'est pour ça que moi je dis attention au moment de juger et de regarder les équipes qui vont attaquer cette Coupe du Monde, de ne surtout pas enterrer l'Argentine et penser que leur, entre guillemets, leur pic est passé et que c'était 2022, et que je pense qu'elle est capable d'être candidate en 2026 et d'aller au bout de la compétition, en sachant que en 2024 ils ont gagné sur le sol américain. Ça peut leur donner des idées.
Même si un back-to-back, comme tu dis, ça n'est plus arrivé depuis 1958-1962, le Brésil à l'époque.
Brésil.
C'est très compliqué quand on est champion du monde de remettre son titre en jeu.
Et il pourrait faire même quelque chose d'unique, à savoir remporter 4 titres de suite, oui, internationaux, ce qui est une folie.
Jennifer, t'y crois toi à l'Argentine cette année? Pas trop.
Si, enfin, quand on regarde l'équipe, on est obligé de penser que forcément, ils vont faire une performance. Après, aller jusqu'au bout, effectivement, le faire deux fois de suite, c'est extrêmement compliqué psychologiquement. Il va falloir réussir à les garder mobilisés et dans le même état d'esprit que lors de la dernière. Mais quand on regarde les effectifs, bien entendu qu'on est obligé de les considérer. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que on se focalise, nous, d'Europe, sur les équipes européennes. Mais bon, l'Angleterre, par exemple, pour moi, n'est pas supérieure aujourd'hui à l'Argentine, loin de là. Ils n'ont pas cette expérience. Et pourquoi pas, en fait?
Oui. Et il va y avoir une donnée aussi sur le continent américain, les températures aussi.
Climatiques, etc.
Ça va, et j'allais en parler. Beaucoup, hein, j'allais,
Maxime,
en parler.
Toi qui es notre guide.
J'allais en parler,
soir,
ouais.
Américain,
je peux vous dire, par expérience que les températures. Alors c'est très très paradoxal parce qu'on a tendance à parler de la chaleur, mais c'est pas vraiment la chaleur qui va poser problème. La chaleur, elle existe en Afrique, elle existe aussi en Europe, on a l'habitude, mais c'est plutôt l'humidité. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, l'humidité, et surtout pendant le mois de juin, le mois de juillet, ressemble énormément à ce qu'on peut trouver en Amérique du Sud. Donc je pense que les équipes sud-américaines et d'Amérique centrale vont forcément avoir un avantage. Là, je pense que en tout cas, je voulais revenir par rapport à l'analyse de Delton qui est très juste. Il n'y a pas grand chose à dire derrière cette masterclass, Delton, bravo. Mais c'est vrai que vu d'Europe, je pense qu'en fait, l'opinion publique, en fait, se base un petit peu sur un Léo Messi qui est vieillissant, un Otamendi qui est vieillissant. Et c'est vrai que quand tu regardes ces deux monuments, tu peux te dire qu'en effet, l'équipe d'Argentine n'est peut-être pas autant armée qu'en 2022. Mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a énormément de bons joueurs dans cet effectif, que ce soit Fernandez, que ce soit McAllister,
Buster, Molina à droite, même Romero que j'aime beaucoup en tant que défenseur central. Pareil pour le gardien qui est peut-être l'un des meilleurs gardiens de but au monde. On a tendance à l'oublier, surtout parce que nous Français, nous ne l'aimons pas trop. Mais c'est vrai que cette équipe est armée en effet pour aller loin. Entre la météo, la qualité de son équipe et puis évidemment le fait aussi voilà, de, que c'est les champions du monde en titre, je pense que l'Argentine est en effet armée pour aller au bout de cette compétition.
Bon, en tout cas, on verra. Ça sera effectivement une première si jamais une nation classée première au classement FIFA.
Ouais, il y a cette fameuse malédiction.
C'est la malédiction des premiers.
Mais en même temps,
il y a eu longtemps la malédiction des champions aussi.
Ouais, et en même temps, il y a une autre donnée historique. Un pays européen qui a gagné hors d'Europe, il y a seulement l'Espagne en 2010. Mmh. Donc ça marche dans les deux sens.
Bon, on verra ça avec cette équipe d'Argentine. Juste pour vous dire aussi que le Portugal s'est imposé il y a quelques instants 2-1 face au Nigeria. C'est pas le début de la Coupe du Monde, hein. Vous n'avez rien raté, vous inquiétez pas. C'était juste un dernier match de préparation pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui n'a pas marqué. But de Neto et de Conceição contre un but d'Adams pour le Nigeria. 2-1 pour les Portugais qui vont donc rejoindre les États-Unis. Allez, vous restez avec nous, 23h48. Dans un instant, on va vous poser la question... qui sera la star du mondial? J'espère que vous avez tous une idée. 32-16 pour nous rejoindre et pour nous proposer un nom. Et puis on sera aussi à l'intérieur du stade Azteca. Alors là, visite guidée par Jean-Louis Tour. C'est dans une minute sur RMC. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
François Pinet.
23h49, l'After Foot qui continue jusqu'à minuit et... pensez-y, dès demain, ça continuera jusqu'à 5h du matin avec les matchs en direct, bien sûr, les débats, les consultants en direct des États-Unis. On est avec Jennifer Mendelevitch, Maxime Chano, Elton Mokolo et avec Jean-Louis Tour qui est en direct de Mexico. Salut Jean-Louis.
Salut François, salut tout le monde.
Ouais,
salut
Jean-Louis. Il est dans son match là parce qu'il va commenter l'ouverture de cette Coupe du Monde Mexique-Afrique du Sud demain à 21h. Mais là, tu vas nous présenter justement... cet antre qui va
être
le cadre de cette ouverture de la Coupe du Monde, le Stade Azteca. Tu es dedans, c'est ça?
Ouais, je suis dedans. Je sors de la conf de presse de Javier Aguirre, le sélectionneur mexicain, et on a pu accéder à la position depuis laquelle je commenterai demain le match d'ouverture. Et donc, du coup, j'ai pu me rendre compte de l'intérieur donc de ce stade dont tout le monde me parle depuis des jours et des jours. Et franchement, c'est impressionnant. Autant j'avais fait le Maracana en 2014 à Rio, et honnêtement, j'avais pas senti ce poids de l'histoire. J'avais trouvé un stade comme un stade moderne, tout ce qu'il y a de plus moderne, comme s'il était nouveau, et on sentait pas vraiment ce qui a pu se passer avant. Ici, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Il y a eu des travaux, bien sûr, hein, pour l'améliorer. C'est pas le stade de 115 000 personnes de la Coupe du Monde 86, mais quand même, quand on monte les escaliers, quand on traverse les rampes qui permettent de monter, eh ben on sent que c'est pas de première fraîcheur, et j'aime bien ce côté-là. Et après, une fois qu'on est dedans, franchement, j'ai rarement vu un stade aussi immense où j'ai l'impression que la pelouse est à des kilomètres, quoi. C'est-à-dire que les tribunes sont tellement abruptes que déjà faut pas avoir le vertige quand on monte les escaliers parce que c'est vraiment en pente raide. En plus de ça, la pelouse est abaissée. En fait, il y a un système de fosse. La pelouse est 10 mètres en dessous du niveau moyen à Mexico. Donc du coup, ça rajoute un peu cette impression où vraiment la pelouse est tout en bas. Donc c'est vraiment impressionnant là visuellement. J'ai pris une sacrée claque.
Ah bah super. Franchement, on a envie d'y être. Là, on a envie d'être avec toi.
Il fait rêver là.
Là oui, l'histoire, tout ça.
C'est joliment dit.
Tu vois exactement où Maradona a mis la main, quoi. Là,
là où il a mis la main et là où il a mis son but surtout. Alors
oui,
après,
oui,
vous allez me dire que j'en fais des caisses et tout, mais je trouve que même sur les lignes de la pelouse et tout, on retrouve les trucs de l'époque. Et donc j'ai l'impression de voir exactement là où il a pris le ballon pour aller marquer ce but, quoi.
Et, voilà.
Et je peux vous annoncer en exclu qu'il y aura un tifo à base de sombrero qui sont déjà positionnés pour les tribunes là. Ah, on est dedans. Vous verrez ça sur le haut du stade. J'hésite à en voler un là, mais bon, je me dis, s'il en manque un, ça fera un peu tâche.
Jean-Louis en sombrero, c'est magnifique.
Faut faire attention, faut rien voler sur cette Coupe du Monde. On ne sait pas comment ça peut finir.
Oui, fais attention si tu veux revenir. Ça. Merci beaucoup, Jean-Louis, en tout cas, pour cette carte postale.
Merci à vous.
Et bonne soirée, au milieu de l'après-midi. Profite de Mexico et surtout, on va te retrouver bien sûr demain pour cette grande soirée foot sur RMC dans l'after avant-match XXL, vous l'avez compris, avec Jean-Louis Tour et avec tous nos consultants avant ce Mexique. Afrique du Sud. Il nous reste 4 minutes pour cette petite question que je vous ai posée au début de cet after. Qui sera la star de la Coupe du Monde? Place à vos paris. On va demander à Salim qui a fait le 32-16, qui est avec nous. Salut Salim.
Salut l'équipe, comment ça va?
Bah, ça va bien, ça va bien.
Salut Zanim.
Alors, ton avis, toi, sur cette question, qui sera la star pour toi?
Bah moi je mettrai une pièce quand même sur Désiré Doué.
Ah bah il m'a écouté Salim, merci, on est dans la même team.
Comme par hasard. Voilà.
Parce que en fait, il faut l'analyser de manière à prendre en considération, donc il y aura le grand public qui va regarder la Coupe du Monde, qui regarde pas forcément le football de club, qui va regarder le football de sélection. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le découvrir, et je vous assure que je suis pas excessif avec le mot découvrir. Par contre, il y a nous qui suivons le foot tout le temps. De clubs qui sont passionnés, et nous on sait que dans le système de Deschamps, Doué va être l'une des clés, parce qu'il va faire il va avoir l'opportunité plutôt de d'être disponible entre les lignes. Je pense qu'il sera beaucoup moins surveillé que certains autres joueurs. Je pense, au football de sélection, ne propose pas la même intensité que le football de club. Je pense qu'il y aura des équipes organisées en face. Et lui, il aura, je pense, sa carte à jouer. Mmh. Et je pense qu'il pourra stater. Alors ça, c'est côté stat. Maintenant, par rapport à son rendement, son niveau de jeu, je pense qu'il est capable, lui, puisqu'il a la faculté de se mettre dans ses meilleures dispositions, que ce soit pour frapper ou pour faire une passe clé, ou même pour dédoubler. Mmh. Je pense que il va pouvoir, je dirais pas se régaler, parce que ça va être excessif, mais je pense qu'il va pouvoir avoir sa carte à jouer durant ce mondial, qui est sa première compétition, grande compétition majeure avec l'équipe de France. Et je mettrai une pièce sur lui à titre personnel, parce que il est peut-être voilà.
Bah écoute Salim, on est assez d'accord. Enfin moi je suis raccord avec toi. Après je vais demander à Jennifer ce qu'elle en pense. C'est quoi toi, qui est ta star pour toi pour la Coupe du Monde?
Moi celui que j'attends c'est Lamine Yamal.
Ouais.
J'aimerais vraiment voir ce que ça va donner avec l'Espagne. C'est rare qu'on ait un aussi jeune joueur qui soit déjà aussi abouti dans son jeu sur une grande compétition comme ça. Et moi ce serait voilà, c'est mon choix à moi, mais Désiré Doué en est un très bon aussi.
C'est pas mal. Elton.
Moi je vais être très original pour faire plaisir à Julien Cazard qui vient d'entrer en plateau.
Bonsoir. Voilà, ça y est.
Ouais.
Ça y est, tu lui as donné la parole, là, c'est fini. Hein.
Exactement.
Là, on peut plus parler.
Non, mais
là.
moi, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé parce qu'il a le stylo pour écrire la plus belle page de son histoire avec
l'équipe
de
France. Moi, je vais me barrer,
moi. Eh oui.
Ouais, belle technique.
Non, mais je vais vous dire, c'est une chose de gagner.
Dire au revoir à Julien.
Non, mais c'est une chose de gagner la Coupe du Monde 2018. Mais là,
chichi Julien.
Bien sûr, c'est l'essentiel.
Non mais là, sincèrement, là, s'il arrive à remporter une deuxième Coupe du Monde en étant, en battant le record de but de Miroslav Klose, en étant capitaine de l'équipe de France, après une saison qui a été quand même très difficile, mais là, on a un scénario de dingue.
Bon, donc, allez, imagine, il met une bicyclette en finale, un triplé, il arrive à s'envoler au-dessus du stade. Voilà. Moi, j'imagine plein de trucs, hein, mais je trouve ça formidable. Alors là, par contre, c'est génial.
L'histoire est folle.
Ah ouais, non, mais voilà. Moi, je suis.
Maxime,
j'ai bien vendu l'histoire.
Qui sera la star?
J'achète.
À part Maxime Chano, parce que ça peut être la star d'RMC, Maxime Chano, bien sûr, pour cette Coupe du Monde.
Ouais. On va se concentrer sur le terrain. Non, moi, j'ai envie de croire aux dynamiques positives, et je vais parler de Michael Olise. Quand je vois la saison qu'il a eue avec le Bayern de Munich, meilleur joueur de la saison en Bundesliga, 52 matchs, toutes compétitions confondues, 31 passes décisives, 22 buts, c'est juste exceptionnel. Quand on voit aussi sa performance là contre l'Irlande du Nord, j'ai envie de croire évidemment à un grand Michael Olise, à condition, et je dis bien à condition, qu'il joue à son vrai poste, c'est-à-dire à droite, et ça, c'est Didier Deschamps qui a la réponse à ma question.
Bon, on remercie aussi Dire qui nous dit que ça sera Kane pour lui, la star de ce mondial. On remercie Maxime, Elton, Jennifer. Laisser la main à une autre star. Les nuits du Cazard enchaînées. Julien Cazard.
Non, il n'y a pas le salaire qui va avec. Non, non.
Écoute, c'est pas grave.
Ouais, on est sur RMC.
Pas que l'argent. Bon,
je rappelle juste, Julien, avant que tu fasses ton petit teasing, demain, exceptionnel. Parce que ça va être les nuits de l'after aussi à partir de demain. Tu sais, tous les matchs, commenter.
Ça va être formidable. Il y a une ambiance. J'ai écouté Valentin Jamin. Il y a une ambiance à Boston. Là, c'est la folie. Hein. c'est un truc de malade. On va vivre une grande Coupe du Monde.
Et oui, ça va être super. 20h, after en direct de New York, Mexique, Afrique du Sud. Toute la nuit jusqu'à 5h du matin. Il y aura un très beau Corée du Sud, Tchéquie, que tu ne manqueras pas à 4h du matin.
Pour le coup, non, mais il y a Kangin Lee.
En plus, voilà.
Attends, moi, je rate pas.
Et puis la radio digitale pour suivre l'intégralité de toutes les rencontres. Donc voilà. Et puis bien sûr, il y aura le Cazard enchaîné.
Oui, mec, Cazard enchaîné, Great Again à partir de demain.
Voilà.
Donc, qu'est-ce qui te fait rire, toi? Ah, il aime pas la vérité, il n'en dégoûte pas les autres.
Julia, il n'y a pas de programme.
Pardon ?
Il n'y a pas un programme.
C'est la remise des casards. C'est les casards. Les casards d'or.
J'attends ça avec
impatience. On finit la saison en remettant les casards d'or.
Les casards d'or.
C'est assez prisé comme.
J'imagine. Ouais. Bon, merci à Najib aussi qui est en régie, Jean-Christophe Drouet qui arrive avec ses casards d'or. Là, je le vois, ça va être formidable. Restez donc à l'écoute d'RMC. Merci Jennifer, à bientôt Elton.
Merci
Maxime.
Salut à tous.
Julien Cazard, Jean-Christophe Drouet, les nuits du casard enchaîné, les casards d'or, c'est tout de suite sur RMC. Très belle nuit à tous. Amusez-vous.
RMC, l'after foot.